Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Aujourd'hui, on va vous parler d'une IA sans écran. On va aussi parler de Twitter encore et toujours. Mais il y a des trucs qui se passent vraiment, là encore, sur Twitter. On a aussi des infos sur le casque de réalité augmentée virtuelle de Apple et un Pixel Fold de Google qui se plie, oui, un téléphone. Bah, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 510, nous sommes en avril 2023, je suis Patrick Béja toujours et je suis très heureux de recevoir deux invités qui prêtent leur légitimité à cette émission malgré eux. D'une part, Cédric Ingrand, un vrai journaliste, enfin ex-journaliste en même temps, mais qui garde son éthique et son expérience. Bonjour Cédric.
Ouais, journaliste, c'est pas un truc que tu fais, tu vois, juste de 9h à 17h. Et c'est même quand t'arrêtes de faire du journalisme, je pense qu'il y a une essence qui reste en toi après. Mmh. Donc ravi, comme tu le dis, de te prêter un peu de crédibilité. Mais on la reprend à la fin.
Hein. Évidemment. Et celle qui nous prête aussi sa légitimité, c'est Pauline Ferrari, qui est là pour la première fois. Alors Cédric, bon, il est chez lui, hein, il est à la maison. Pauline nous prête sa légitimité pour la première fois. Bienvenue Pauline, bienvenue parmi nous, comment vas-tu?
Ça va, bonjour et merci de l'invitation, c'est cool, j'espère que j'aurai des trucs à dire sur la technologie. J'ai vu une news, j'espère qu'on va en parler sur Ratatouille.
Évidemment ouais, qu'on va en parler, voilà. Le projet d'Amazon.
Le projet Ratatouille, vraiment, c'est mon classique, vraiment, j'ai hâte.
On y arrivera tout à l'heure, c'est le teasing. Est-ce que tu pourrais, Pauline, te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Pauline Ferrari, comme la voiture, voilà, ça ne s'oublie pas. Et je suis journaliste indépendante depuis quelques années maintenant et je travaille sur trois thématiques. La question des nouvelles technologies, la question de genre et les questions de société. Et donc, j'essaye de comprendre comment Internet change nos vies et je travaille plus particulièrement sur les communautés en ligne, Instagram, TikTok, ce genre de choses, et sur les jeunes, sur comment les jeunes... pratique l'Internet et le web 4.0.
4.0, voilà. On y est déjà. Je plaisantais tout à l'heure en disant que tu es un petit peu la Taylor Lorenz de France. Taylor Lorenz qui est une journaliste, une milléniale qui traduit en fait l'Internet des jeunes aux vieux aux États-Unis, enfin aux vieux, aux gens comme moi, je ne sais pas si on peut dire que je suis vieux. Et je me disais, ouais, tu vois, moi je connais Taylor Lorenz, ça veut dire que je suis jeune en fait et tout. Et en fait, non, elle parle aux vieux. Donc.
elle écrit dans le Washington Post. Comment te dire ?
En fait, maintenant que tu le dis, j'ai lu un super portrait d'elle, je crois, il y a quelques années, où elle expliquait justement comment elle travaillait pour parler des jeunes et comment elle trouvait les trucs de jeunes. Et oui, je vois qui c'est, mais je ne connaissais pas son nom, j'avoue, Taylor Lorenz. Moi, ça me va comme titre.
Très bien. Bon, ben voilà, c'est attribué. Non, mais elle est formidable, effectivement. Elle travaillait quand même... où elle était avant le Washington Post ? Parce qu'elle s'est faite débaucher. Elle était tellement bien et elle a tellement le doigt... Enfin, ça va tellement vite, peut-être que maintenant un peu moins, mais elle avait vraiment le doigt sur les trucs qui se passaient chez les jeunes sur Internet. Et du coup, tu comprenais vraiment la suivante, et pas juste genre « Ah, ça, c'est la nouvelle app populaire », mais vraiment la manière dont les gens, les nouvelles tendances sur les applications ou les manières, les nouveaux problèmes qui se posent, etc. Enfin bref, Taylor Lorenz, elle est vachement bien, je vous en parle depuis longtemps. Et on a du coup Pauline Ferrari, qui est une version améliorée de Taylor Lorenz, c'est ce que je veux dire.
Voilà.
Donc, on va parler de différents sujets aujourd'hui, comme l'IA. Et il y a des trucs intéressants, des nouvelles possibilités qu'offre l'IA au niveau du hardware. Et puis, un lancement chaotique chez Twitter. Mais avant ça, je voudrais quand même remercier Manapani et Rui Fernandez, qui sont les nouveaux patriotes qui ont rejoint l'équipe des patriotes incroyables qui soutient le Rendez-vous Tech, ainsi que les producteurs de cet épisode, Raph et Olivier Maury. Si vous passez un bon moment. Si vous avez ri là déjà depuis le lancement de cet enregistrement, de cet épisode, c'est grâce à eux. C'est parce que eux, ils soutiennent cette émission. Donc, envoyez-leur un petit merci dans votre tête, comme ça, un petit bisou, que vous soyez dans les transports ou en train de faire votre sport. Prenez une seconde pour dire « Ah, Manapani, Rui Fernandez, et puis Raph et Olivier, c'est des gens sympas. C'est grâce à eux que cette émission existe. » Moi aussi, je leur envoie des bisous, comme ça, un petit peu de temps en temps, au hasard, de ma journée. Et puis, je voudrais quand même prendre une seconde pour vous parler, vous remercier pour Battle for. Je vous en avais parlé depuis des semaines. C'est cet événement caritatif auquel j'ai participé ce week-end, qui était tenu au profit de Handicap International et Premier de Cordée. Et on a vraiment passé de super moments. Je vous en ferai peut-être un petit édito ou un truc un petit peu plus public, je ne sais pas un édito que pour les Patriotes, mais il s'est passé des trucs incroyables. J'ai presque battu le record du monde de speedrun de Super Mario Brothers, le premier niveau. À la première tentative, j'ai fait 30 secondes, le record c'est 29 secondes. Bon, ce n'est pas un truc très difficile, mais quand même. J'ai fait un live dans la forêt. Je suis allé dans la forêt avec mon téléphone. Je vous ai montré autour de chez moi avec le ponton, le bras de mer, la forêt. On a presque croisé des loups, etc. Il y a des gens qui ont, je plaisante pas, presque croisé des loups. Enfin, il y a des loups qui sont à quelques kilomètres, quoi. On a fait quoi d'autre ? J'ai fait des pompes. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de pompes j'ai fait pendant ce week-end ? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un donnait plus de 50 euros, je devais faire la somme en nombre de pompes moins 50 quand même. Faut pas déconner.
Ah oui.
À votre avis ?
200 ?
200 ? C'est pas mal, 200 quand même.
C'est bien, 200.
Ah, j'aurais dit 200 aussi.
Ouais ? Petit joueur, j'ai fait 767 pompes, messieurs, dames.
Holy
767 !
C'est vrai ?
Et oui, vous m'auriez dit ça au début. C'était 48 heures, hein. J'aurais pas cru. Et
ah
pourtant,
oui, d'accord, ok.
La force, oui, c'était 48. Et puis, c'était pas à la suite. C'est pas que, genre, faut pas déconner.
Oui, c'est ça.
Non, mais, non, c'était pas à la suite.
Mais quand même. Non, mais 200, attendez. Vous croyez que j'avais fait 200 pompes à la suite? C'est ça, votre truc?
700.
Thibaut Inchek, il y arrive.
Écoute, je sais qu'on voit pas bien là. On voit pas tout mon torse puissant dans la webcam.
Voilà.
Je suis pas tout à fait au niveau de Thibaut Inchek, tu vois. Je suis plutôt au niveau, j'ai deux enfants et j'ai pas fait de sport depuis 1942. Donc, bon, écoute, moi j'en suis fier. Il y a eu plein de trucs.
Non, c'est vrai
trucs
que cool. Moi j'ai un ami que je connais qui sait faire ça et il te ressemble pas en fait. Accessoirement, il a été champion du monde de boxe.
Mais bon. Voilà, exact. Et donc, bon, bref, moi j'étais fier.
Moi,
on est
fier.
Merci. Très, je suis très. On est très impressionnés tous les deux.
Voilà, c'est ce que j'attendais comme réaction. Merci, merci.
Voilà, c'est l'effet escompté.
On avait un quiz sur le MCU et le DCU fait par Dragomodo. J'ai retrouvé des gens que je connaissais, enfin que j'avais croisés à la WWI, la présentation de Diablo 3 en 2008, et qui avaient encore les carnets qu'on avait signés, autographés, quand on faisait Azeroth.fr, enfin, et qui m'ont envoyé des photos. C'était dingue, c'était super sympa. Je vous en parlerai sans doute dans un petit édito à un moment, parce qu'il y avait des moments super. On a parlé de tous les ordinateurs que j'ai eus depuis le premier ordinateur, et on s'est rappelé de plein de trucs super marrants sur l'Amstrad CPC.
C'est pour impressionner Pauline que tu es en train de nous sortir tous tes rêves de boomer ou...
Tu veux dire qu'il faut avancer ? Très bien, avance. En tout cas, c'était super cool, l'organisation incroyable.
Parce que mon TRS-80 modèle 3...
Ah non, alors ça, c'est des rêves de boomer. Amstrad, c'est des rêves de génération X, c'est pas pareil. Et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui étaient là, qui ont regardé, qui ont participé, qui ont donné, les modérateurs qui ont pris du temps pour venir modérer la chaîne Twitch, et bien sûr l'organisation de Battle for qui était folle. S'ils en font une l'année prochaine, j'espère que je pourrai participer également. Et accessoirement, toute leur gars avec les 150 streamers ont réussi à lever quelques centaines de milliers d'euros pour les organisations et la visibilité des personnes handicapées. Donc, c'était un bon moment passé ensemble et je suis très content de l'avoir fait. Et sur ce, on va parler des infos à retenir aujourd'hui, cette semaine, avec d'abord l'IA et un produit un petit peu inattendu qui a été présenté par Imran Chaudhry, un ancien d'Apple, qui a fondé une société qui s'appelle Humane, donc humain dans le sens droit humain, enfin humain, pas dans le sens je suis un humain, mais dans le sens nous sommes, droits humains, quoi, ce genre de choses. En gros, C'est un petit appareil qui n'a pas d'écran, qu'on pose sur sa veste ou dans la poche de sa veste, un truc comme ça, qu'on accroche à ce qu'on porte. C'est de l'informatique portée, qui intègre une machine et un haut-parleur et accessoirement une petite caméra et un mini projecteur, et qui est connecté, je pense, par Internet à une IA. Une IA qui peut devenir votre assistant personnel. Et il y avait des choses intéressantes qui ont été imaginées pour ce produit. Bien sûr, on peut avoir des conversations comme on peut l'imaginer avec des assistants personnels qui seraient proches de ChatGPT. Donc, ils vont vraiment nous comprendre et ils vont vraiment nous répondre, pas comme Siri et ses amis. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses sympas, comme le fait que, bien sûr, il est connecté à... Il a votre calendrier, vos données, vos documents, etc. Et le petit projecteur, vous mettez la main devant, il peut vous donner des données qu'il n'a pas besoin de dire oralement. Donc ça, c'est pratique. Il y a aussi le fait qu'il a une caméra et donc il peut regarder ce que vous êtes en train de lui montrer et vous donner des informations dessus. Ou par exemple, dans la démo, l'ami Imran disait, il montrait une barre de chocolat, il disait « Ah, regarde, est-ce que ça, tu penses que je peux le manger ou pas ?» L'IA lui disait « Écoute, c'est pas super bon pour ta santé non plus !» Et puis il lui dit « Je vais le manger quand même. » Et donc l'IA lui dit « Bon, bon appétit, enjoy !» Donc c'était marrant. Mais c'est un nouveau type d'appareil qui est possible uniquement grâce à l'interface homme-machine de l'IA qui fait que il comprend ce qu'il dit et il peut nous répondre de manière intelligible. Et c'est un nouveau type de device qui me paraît intéressant, auquel on n'a pas forcément pensé jusqu'ici. Parce que, OK, il y a un projecteur, mais il n'y a pas vraiment d'écran. Et l'interface passe entièrement par la voix. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse ? Vous pensez que ça va se développer plus que ça ? Ou c'est un effet de mode au début du développement de l'IA ? Je vais peut-être poser la question à qui veut, je ne sais pas. Pauline, tu as gagné au tirage au sort au hasard.
En vrai, alors, je pense qu'on a dû te le dire énormément dans cette émission, mais ça me fait un peu penser à Black Mirror. voilà. Non, mais en vrai, je trouve que l'IA de manière générale, enfin, les IA de manière générale, c'est hyper intéressant, notamment dans le domaine de la santé. Moi, c'est un truc que j'ai beaucoup étudié sur comment on pouvait adapter les traitements, prévoir les maladies et justement réduire les inégalités grâce aux IA. Là, ce truc de projecteur, j'avoue, le premier truc qui me fait penser, quand t'as dit projecteur, je me suis imaginé un projecteur portatif pour pouvoir vraiment diffuser ses vidéos YouTube ou regarder un film n'importe où.
Alors, et c'est presque ça, c'est plus petit, donc ça projette sur la main.
Ouais. Ça, je trouve ça vraiment pratique pour le coup. Après, sur la discussion avec l'IA, c'est toujours la grande question philosophique de est-ce qu'on va pas continuer à juste discuter avec des IA et arrêter de discuter entre êtres humains. voilà, c'est un peu Black Mirror. Hein. Mais en vrai, je trouve ça intéressant. Je trouve c'est intéressant, surtout si ça permet une meilleure compréhension des données aussi, et surtout une meilleure protection de certaines données de santé. Le fait de pas avoir un écran, le fait de pas l'avoir à pleine voix, etc. quoi.
Je suis pas. Alors, comment dire, quand j'ai vu les premiers articles là-dessus, je me disais, ça y est, dernier arrêt avant le cyborg, tu vois. Mais en fait, non. En fait, c'est un peu comme la cuisine mexicaine. Hein. Tu peux faire des plats nouveaux, mais c'est toujours avec les 8 mêmes ingrédients. Et c'est pas un taco, ça. C'est une salade taco. Ah, très, très bien, ça n'a rien à voir. Et là, c'est pareil, parce qu'en fait, tout ce qu'ils nous montrent existe déjà. T'avais même déjà des smartphones qui intégraient. On se souvient, Samsung avait essayé de faire des smartphones qui intégraient des projecteurs, bref. Et donc, c'est une. Il faut quand même que ce soit une position spécifique sur ton corps pour que ça marche. Ça peut pas être au fond d'une poche. Il dit regardez, c'est sans smartphone. Oui, enfin, il y a quand même un device qui est avec toi et qui est connecté au réseau. Et c'est un peu comme souviens-toi, ce truc où la première fois qu'on l'a vu, on a fait waouh, ça y est, ça va révolutionner le monde de demain. Cette espèce de micro-projecteur laser qui projette un clavier sur la table devant toi. Tu dis regarde, j'utilise un clavier, mais j'ai pas de clavier. Oui, enfin, t'as quand même un device que t'as acheté qui t'a coûté plus cher qu'un clavier et qu'il faut que tu balades avec toi. Tu t'inquiètes de son autonomie. Enfin, non, et c'est au bout d'un moment, on a vu que ce truc, finalement, était plutôt une sorte de, comme je dis souvent, une solution en attente d'un problème. Ça a eu un avenir assez léger. Donc, c'est pas inintéressant. C'est amusant parce qu'on dirait un peu un outil qui, si tu veux, un peu comme plein de gens dans les 3 ou 4 derniers mois, sont dit merde, faut mettre de l'IA dedans. C'est pas juste un truc qui est le post-smartphone, il faut absolument que ce soit que de l'IA. Parce que pour le reste, c'est un assistant intelligent, c'est machin. Enfin, c'est la réorganisation de briques Lego qu'on avait déjà.
Ouais.
Et qui, en termes d'usage, je sais pas, tu vois, j'ai du mal à être convaincu. Alors, il faut essayer des trucs, hein, donc moi, il faut jamais décourager ce genre d'initiative. Tu vois, je suis à peu près aussi excité que je l'étais quand j'ai vu Google Glass arriver la première fois, en disant, c'est intéressant, mais je suis pas sûr que ça va être très bon.
Pas convaincu du tout.
Là, c'est pareil. Mais là aussi, c'était un truc valeureux. Il fallait le faire, il fallait avoir les moyens de le faire. Donc, c'est chouette s'il y a des gens qui financent ça. Mais part quelques papiers qui disent voici le truc qui menace l'iPhone, c'est comme à chaque fois que tu sors un truc sur un smartphone, ouais, sur l'iPhone, sinon t'as perdu. Dès que tu parles de voiture, faut dire est-ce que ceci peut concurrencer Tesla. Enfin, tu vois, voilà. Je trouve que ça marche bien dans un TED Talk. Après, dans la vraie vie réelle,
je me
permets d'avoir un smidge of doubt.
Je crois qu'il y a deux choses qui sont intéressantes à noter. C'est d'une part, ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure, le fait que c'est rendu possible par les avancées de l'IA générative qui fait qu'il peut vraiment comprendre ce que tu dis et vraiment te répondre de manière intelligible. Tu peux avoir une conversation, donc tu peux avoir une interface homme-machine qui passe uniquement par la voix. Jusqu'ici, c'était très, très compliqué, comme on l'a vu avec les assistants existants. Donc ça, c'est intéressant. L'autre élément, c'est que tout ce qu'il y a dans cet appareil, c'est aussi dans un smartphone. Donc pourquoi pas utiliser, enfin à vrai dire, pourquoi pas dans, j'espère, 6 mois, voire 1 an et demi au plus tard, on aura dans nos smartphones un assistant équivalent. Est-ce qu'on a besoin d'un appareil dédié pour faire ce genre de travail, ce genre de fonctionnalité? J'en suis pas convaincu. Alors oui, il y a le projecteur, etc. Mais tout le reste, c'est déjà dans le smartphone. Il est possible que ce type de facteur, ce type de format convienne mieux à certaines utilisations. Mais ce qui ressort quand même de cette présentation, c'est que l'IA permet de nouveaux types d'interactions avec les appareils et donc de nouveaux formats. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas cannibalisé par le smartphone d'ici quelques semaines, quelques mois, parce qu'ensuite, il y a plein de questions qui ne se posent pas dans un TED Talk, comme vous le disiez. L'autonomie, on ne se pose pas la question. La manière dont c'est connecté, est-ce qu'il faut une connexion 5G, 4G, 5G, ou est-ce que tu es connecté Wi-Fi, etc. Comment tu set-up le truc? Est-ce qu'il te faut ton smartphone pour paramétrer ton truc à la base? Ou peut-être que tu peux simplement lui parler, mais donner ton mot de passe pour des documents, ton drive...
Le fait qu'il communique avec toi en affichant une image, j'ai envie de dire, dans le monde réel, et en te donnant des trucs au travers d'un haut-parleur, donc tu ne vas rien faire qui relève de la sphère privée, tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai aussi.
Tu n'oserais même pas faire un « lis mes messages ».
Ouais.
Quelles sont les dernières analyses de sang, s'il te plaît? Est-ce que j'ai une chlamydia? Non, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner, je ne pense pas.
Peut-être qu'il sera un petit peu plus prudent, genre « Écoute, j'ai l'impression que tu es dans un lieu public. Es-tu sûr que tu veux que je te lise ?» Bon, donc voilà, ça c'est... Mais c'est quand même un truc intéressant à regarder. Je pense que c'est plus des briques de choses ou des directions qu'on va retrouver ailleurs qu'un produit qui aura un succès en tant que tel, mais... On verra. Y a plein de petites news sur l'IA sur lesquelles je vais passer rapidement pour arriver à d'autres trucs un petit peu plus importants. D'une part, il semblerait que Google soit en train de tester la possibilité de remixer les pubs avec de l'IA, ce qui m'a fait cringer au début et qui finalement, si c'est très très dirigé, n'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir systématiquement le même texte de ta pub, tu peux changer un tout petit peu en fonction de la personne. Évidemment, il y a des accidents qui peuvent arriver. Stability AI qui a créé Stable Diffusion, donc le générateur d'images, a publié Stable LM, qui est un language model, donc une sorte de chat GPT, on va dire. Mais comme Stable Diffusion, il est entièrement libre d'accès. Et donc, de la même manière que Stable Diffusion a créé des dizaines d'outils de génération d'images, Stable LM, c'est le dernier à être ajouté, mais de manière assez, avec une légitimité que n'ont peut-être pas les autres, comme outil pour les développeurs pour créer ensuite leur propre ChatGPT-like. Et ça, c'est là encore une énorme étape dans le développement de ce type de technologie. Quoi d'autre ? Google continue à s'agiter dans tous les sens pour essayer d'avoir un département IA qui réussisse à faire quelque chose. Bon, plein de petites news comme ça. Une news qui est encore plus intéressante, enfin une série, c'est les impacts de l'IA, peut-être de manière un petit peu inattendue ou au contraire de manière extrêmement attendue. Il y a un article intéressant qui parle de la manière dont l'IA a influencé les plateformes comme Fiverr et les plateformes du genre. Vous savez, Fiverr, c'est la plateforme où on peut vendre des services, où qu'on soit dans le monde, à quelqu'un, ou qu'il soit dans le monde, des services du type création, d'illustration, etc. Surtout de l'illustration, mais je pense à Twitch, il y a des scènes OBS qu'on peut faire, etc. Eh bien, l'influence de l'IA et de l'IA génératif est qu'évidemment, il y a des gens qui s'y sont mis et qui prennent les requêtes et qui ensuite vont envoyer des résultats générés par IA en quelques minutes, et ça pollue complètement la plateforme. Et donc, il y a plein de gens qui commencent à dire « Mais moi, je veux des trucs sans IA, je veux un truc vraiment fait », surtout qu'ils font payer au prix où les vrais illustrateurs peuvent faire payer, etc., etc. Donc, c'est un premier impact sur ce type de plateforme. Un autre, c'est on commence à voir dans les reviews Amazon des phrases comme as an EA language, an AI language model, ou I cannot generate inappropriate content. Donc tu vois que déjà ils commencent à générer du contenu pour les commentaires sur Amazon, etc. Il y a aussi un flux Twitter qui a fait le tour de la toile ces dernières semaines. C'est Harry Kutz, que je ne connaissais pas, qui est un chercheur, qui a créé deux sites entièrement automatisés et alimentés par IA, Tech Génération et Cuisine Génération, avec des contributeurs qui sont des IA spécifiques, qui ont leur histoire, leur mentalité, leur style, et qui alimentent donc, je vous laisserai aller voir le flux lui-même, vous cherchez le nom de Harry Kutz, mais c'est entièrement automatisé, alors c'est pas super qualité, hein, on est d'accord, et lui le dit aussi, il est très transparent avec ce qu'il fait, mais il y a certains sites qui sont alimentés à la chaîne par des gens qui font de la news toute la journée. On s'approche de ça, quoi.
Bien sûr. Et puis, il y a tellement besoin de contenu. C'est-à-dire qu'il y a des gens jusque-là qui, par exemple, en payaient d'autres pour générer du contenu purement SEO, tu vois ce que je veux dire, en disant, voilà, fais-moi 800 pages sur, je sais pas quoi, tu vois, les tondeuses à gazon pour mon site de tondeuses à gazon. Et là, tout à coup, tu peux le faire générer, mais au kilomètre, avec du contenu qui est toujours frais, en plus. Et donc, ça fait peur. Alors évidemment, on le voit, les moteurs de recherche Google en premier ont déjà un peu la parade et arrivent à dégrader le classement de trucs automatiquement générés. Mais j'ai vu une expérience de quelqu'un qui disait, avec AutoGPT par exemple, on peut aller chercher le best-of, par exemple, de l'actu tech de la journée, et puis te générer les lancements du podcast qui doit aller avec du ton, parce que tu peux lui dire, tiens, fais-moi ça dans le ton de, je sais pas quoi, d'Anthony Bourdin, ou de, tu vois, un truc un peu sympa. L'étape d'après, évidemment, c'est que tu le fais générer par une voix artificielle, tu rajoutes ton habillage, et boum, ça y est, tu as ton podcast quotidien qui t'a pris 10 minutes à faire, quoi.
Ça pose plein de questions je trouve, dans ma profession qui est le journalisme, je trouve que ça pose énormément de questions.
Aïe, aïe, aïe.
Pour les gens qui regardent, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a énormément de sites de news qui font ce qu'on appelle du bâtonnage de dépêches toute la journée. Le bâtonnage de dépêches, c'est on prend des dépêches AFP, donc c'est des infos un peu brutes. En Inde, il y a eu une explosion qui a fait tant de morts. Enfin, c'est une info très brute comme ça. Et il y a des sites de news extrêmement connus qui, toute la journée, en fait, on prend la dépêche AFP, on la copie-colle, on change quelques phrases, on met une image et un bon SEO en chapeau, en titre pour que ça remonte, et on part. Et du coup, il y a des journalistes, et surtout quand on est jeune journaliste, moi je l'ai fait pendant des années, de faire du bâtonnage de dépêche, où on est payé 100 balles la journée, et on fait une dizaine d'articles dans la journée. C'est vraiment à la chaîne. Et en fait, ce genre de modèle IA, ça pourrait remplacer totalement, parce qu'en termes d'apport intellectuel...
Ça peut déjà, ça y est, c'est terminé, là.
Parce qu'en termes d'apport intellectuel, zéro, quoi. Enfin, je veux dire, en tant que journaliste, généralement, on rêve pas de faire du bâtonnage de dépêche toute la journée. Mais ça pose plein de questions, quand même, sur... il y a plein de gens qui l'ont évoqué, mais sur les fake news, sur qui va être capable de créer des news assez on va dire, pertinentes et qui apparaissent assez vraies, et comment on fait pour différencier tout ça. Et oui, Google commence à parer des choses, mais ça va de plus en plus vite. Et c'est, en vrai, c'est assez impressionnant. Le site de cuisine, je l'ai vu, et c'est assez ouf, en vrai. Hein. C'est... Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment un truc, c'est un peu peur quand même.
Ça fait, disons que, alors comme je disais, c'est des sites qui ne sont pas d'incroyable qualité, mais ça tient la route. Et ouais, du coup, moi, c'est ce que je disais depuis un moment, c'est que ce genre de contenu, oui, ça va être en tout cas en partie automatisé. Et donc, le métier de journaliste, je pense qu'il va regagner un petit peu de ses lettres de noblesse, parce qu'être journaliste, ça ne va plus être ça. Ça ne va plus être faire du bâtonnage de dépêche. Et tu ne pourras plus, il n'y aura plus la place pour ça. Donc, il faudra que tu sois un vrai journaliste. Et justement, peut-être, tu parlais de fake news, que tu sois rompu aux méthodes de détection de ce genre de choses, que tu ailles enquêter, trouver l'origine de l'image ou du texte ou ce genre de choses.
Donc, je pense à l'inverse que ça va accélérer le mouvement vers le payant.
Possible, oui, ça va tellement, complètement, oui.
Ça va tellement dévaloriser l'expérience du gratuit, en fait, que le seul moyen pour les médias de s'en sortir, pour avoir travaillé dans des médias en ligne et de grandes maisons, je peux t'en parler, où en gros, quand tu lances un site d'info aujourd'hui, tu as des consultants en marketing qui viennent te dire « Pourquoi vous voulez faire ça ?»« Bah, parce que c'est notre métier. » Bah oui, mais là, vous allez vous jeter dans une mêlée de rugby à 80, en fait. Donc c'est un
c'est
peu...
Et c'est pas rentable.
Ouais. Voilà, vous n'allez pas gagner d'argent, vous le savez. Oui, mais c'est notre métier. Et
on a envie de faire les choses bien. On a envie de faire de l'information. C'est chouette.
C'est un peu Mandalorian, c'est This is the way. Enfin, je veux dire, voilà.
peut-être qu'il faut changer de way, Bo-Katan Kriz.
Voilà, c'est ça. Du coup, ça te force à changer de way et à te dire, bon, finalement, le seul business model, ça va devenir le payant parce que tu vas avoir tu vois, des milliards et des milliards et des milliards de contenus générés, autogratuits. Auto-générés gratuitement pendant que leur créateur dort, en fait, dans l'ensemble. Et ça va, t'imagines faire un tech meme aujourd'hui, c'est une rigolade.
Oui,
c'est une plaisanterie, faire un site de flux. Donc, je pense que pour aller chercher de la valeur ajoutée, il faudra faire les choses autrement. Mais le New York Times, il leur a fallu, 40 itérations différentes avant d'arriver à trouver un business model. Hein, c'est pas...
Il y a aussi dans le domaine de la musique des choses intéressantes qui se passent, notamment, alors il y a AI-Zis, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est un faux album d'Oasis, et beaucoup de gens ont pensé que tout le truc est généré par IA, c'est d'une qualité incroyable. En fait, non, c'est uniquement la voix de Gallagher qui a été clonée et utilisée pour chanter au milieu du bruit et des guitares saturées du truc. Ça passe complètement, mais ça n'a pas été écrit par IA, c'est pas joué par IA, donc c'est moins impressionnant qu'on pourrait le penser. Mais il n'empêche, il y a des gens qui commencent à s'intéresser aux conséquences réelles de ce genre de choses, et c'est pas le seul, hein, AI-Zis. Il y a plein d'exemples qu'on commence à voir de trucs générés par IA, mais Grimes, qui est une artiste bien connue, elle a annoncé, les gens... Vous pouvez faire de la musique avec ma voix, vous pouvez faire des deepfakes, pas de problème. Moi, je veux bien et on partage les revenus à 50-50, comme avec n'importe quel créateur avec lequel je collabore. Donc, allez-y et on partage les royalties. Moi, je pense que c'est... Je ne sais pas si elle est en train de scier la branche ou si elle est en avance sur son temps. Ou au contraire, juste au temps où elle vit. Mais je trouve que c'est...
En tout cas, elle a l'intelligence de ne pas traiter le truc juste comme du bootleg, tu vois ce que je veux dire. Comme du piratage, en disant « Ah, c'est mal, arrêtez tout de suite », parce qu'on sait que ça ne va pas s'arrêter, donc ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire. C'est l'intelligence de Spotify qui, quand ils sont arrivés, il faut se souvenir, en face de Spotify, certes, il y avait iTunes, mais il y avait surtout Kaza, BitTorrent et les autres. Où il a dit « Non, mais il faut arrêter de traiter le piratage comme juste un truc mal ». Mais il faut le traiter comme un concurrent. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux que le piratage ? Et de fait, c'est pas iTunes qui a mis le piratage. Le Spotify. Bah là, c'est pareil. If you can beat them, join them. je trouve ça intelligent. Ça résout pas tous les problèmes, mais je trouve ça tellement passionnant. Si tu veux le côté du faut-il interdire des choses qui sont faites dans le style de et au nom de quoi ? Tant que tu te fais pas passer pour l'original, que tu dis pas « si, je vous promets, c'est Jay-Z qui a fait ce disque ». Voilà.
Oui, mais si tu utilises la voix de Jay-Z pour générer un clone, comme je l'ai fait pendant Battle 4 notamment, enfin je vous en avais
Mais va dire à Patrick Sébastien que ça fait 50 ans qu'il ne devrait pas imiter des gens, tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas sur le principe. Je comprends que ça ressemble vachement,
Mais... C'est de l'imitation.
Ouais, oui. Départage-nous, Pauline. Est-ce que c'est autorisé ou
non,
pas
Non, en vrai, je trouve ça intéressant comme approche. Et surtout, je pense qu'il y a un truc aussi... alors ça, c'est mon truc prisme du genre qui revient. Mais parce que je pense qu'il y a énormément d'artistes féminines. Quand je dis artistes féminines, c'est pas que en musique, mais aussi en tant que modèle, en photographie, etc. Un des plus gros dangers qu'on ait une femme sur Internet actuellement, c'est aussi la question du deepfake. Et que ce soit en termes de visage, en termes de voix. Et en fait, je trouve que c'est assez malin de la part de Grimes de justement l'aborder sur cette question d'un usage collaboratif, et c'est-à-dire de pas être en guerre contre l'IA, mais de travailler avec. Parce que en fait, moi je pars du principe que n'importe quel outil peut être détourné pour le mal, entre guillemets, si on fait une version très manichéenne du truc. N'importe quel outil technologique peut être détourné pour le mal, et donc c'est aussi un changement au niveau des paradigmes et des usages des gens pour en faire quelque chose de stylé et quelque chose de bien. Et en fait, je trouve que c'est une bonne manière de l'aborder, de vouloir changer les usages, mais comme si on arrivait à diriger les usages du deepfake pour quelque chose, je sais pas, de profitable à la société, je sais pas comment on pourrait faire, plutôt que juste créer des deepfakes porno de meufs juste pour les cyberharceler et faire du chantage, par exemple.
Bah là, mais
je pense qu'il y a plein de trucs à explorer là-dessus, quoi.
Je suis pas sûr que là, tu vois. Enfin, là, ce qui c'est, elle parle spécifiquement de sa musique. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'elle dit, OK, allons-y, faisons-le. Et je me demande si, dans un ou deux ans, elle va dire, bon, c'était une connerie, on va arrêter ça. Ou est-ce qu'elle sera une pionnière et qu'elle va possiblement, on n'en sait rien, ça se trouve, ça va rapporter 14 centimes, ce truc, mais possiblement commencer à générer des revenus avec l'IA et qu'elle va être suivie par tous les autres artistes qui vont aussi dire, plutôt que s'opposer, dire « Non, je veux pas, disparaissez tout de suite, ça n'existe pas », en se mettant la tête dans le sable, qu'ils se rendent compte, un petit peu comme ça a été le cas avec le streaming, que ça rapporte de l'argent et que du coup, ils vont y aller aussi, je sais pas. Mais par contre, tous les deepfakes, illégaux, agressifs, ça, je crains que ça ne change pas grand-chose, tu vois, parce que c'est pas parce qu'elle donne l'accord pour l'utilisation de sa musique que tout à coup ça va arrêter de créer des
pornos. Malheureusement.
Un autre truc dont je voulais parler, c'est tu l'évoquais à l'instant, Cédric, et peut-être que tu peux un petit peu éclairer ma lanterne. C'est la dernière coqueluche du monde de l'IA, c'est AutoGPT ou Baby AGI, qui fonctionne un petit peu de la même manière. En regardant un petit peu ça et en testant, j'y ai vu des choses intéressantes, mais pas quelque chose qui a blowé mon mind, comme disent les jeunes, je me confirme.
En français,
Pauline.
Dans le texte.
En gros, ce que c'est des scripts qui utilisent ChatGPT pour accomplir des tâches du début à la fin. C'est-à-dire qu'il va demander à ChatGPT comment est-ce qu'on fait ça. ChatGPT va dire, alors, il faut faire ci, ça, ça, ça et ça, voilà, 5 étapes. Et il va ensuite reprendre chaque étape et lui demander, avec des outils, des plugins, des machins, d'accomplir chaque étape. Alors, c'est intéressant comme outil, mais ça me paraît assez loin de l'AGI, Artificial General Intelligence, qui est en gros l'IA, comme on l'imagine dans la science-fiction, une intelligence artificielle.
Mais qu'est-ce que t'es pressé, c'est incroyable, t'imagines.
Non, mais moi, ça m'a pas impressionné pour une fois qu'il y a un truc d'IA qui m'impressionne pas. C'est bien ça, j'ai bien décrit AutoGPT, ça t'a
c'est comme si t'avais été comme si t'avais été passager du premier vol commercial et qu'une fois dans les airs tu te dises ouais, j'ai un peu froid. tu vois ce que je veux dire? On est à 6 mois de GPT 3, 5 et 4. Enfin, c'est
donc non, oui, non, c'est spécifiquement en fait... AutoGPT qui m'a pas défrisé plus que ça, mais
Non, mais c'est ça, faut jamais oublier qu'on en est au stade où, je sais pas, l'internet était en 1996, tu vois ce que je veux dire.
Bien, oui.
Et pense à l'accélération qui a eu lieu ensuite. Quand tu vois la vitesse des annonces, machin. Sur AutoGPT, c'est ça, c'est l'idée d'avoir une espèce d'agent chef d'orchestre, hein, qui puisse prendre la main sur ton ChatGPT au travers de l'API d'ailleurs, et puis aller sur d'autres outils pour lui-même utiliser le produit de ta première question et pour en gros accomplir le truc. Alors évidemment, il y a des gens qui s'amusent en disant, en demandant à AutoGPT comment ferais-je pour détruire la Terre. Et alors le truc part en sucette en disant oui, tiens, il faut que je fasse des recherches sur les mégabombes, sur les Nerve Agents, etc. Genre non, arrête-toi s'il te plaît. Donc c'est en fait ça, moi j'ai pas de souci avec ça tant que le truc n'a aucune interface avec le monde réel, tu vois.
Ouais. Interface. Tant que tu peux pas vraiment fabriquer des armes et tout ça. Oui.
C'est ça. J'ai trouvé que voilà, pour lancer une bombe, il suffit de se connecter sur le truc de machin. Ah mais comment me connecter? Ah, j'ai trouvé un truc de hacking et ils utilisent tel système. Je vais aller chercher. Stop.
C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils se créent des tâches avec ta première requête et ensuite pour chaque tâche, il va les mettre dans un coin, dans une liste. N'importe qui peut y accéder sur le site de AutoGPT. Et pour chaque tâche, il va ensuite les prendre une à une et trouver les outils qu'il faut pour accomplir la tâche l'une après l'autre, les tâches l'une après l'autre. Et au final, normalement, tu as le résultat que tu avais demandé, même si c'est beaucoup trop complexe pour que ChatGPT le fasse lui-même d'un coup.
Exactement. Et il peut faire des trucs en parallèle. Enfin, c'est confondant à regarder, mais c'est le next step. Hein, tu vois, c'est de l'automatisation à... J'ai pas envie de dire à petit bras parce que je trouve ça intelligemment fait, mais encore une fois, c'est
bricolé,
version 0.1 quoi. C'est du bricolage génial, mais ça reste du bricolage. Mais tu vois le potentiel du truc, c'est-à-dire que ceci sera dans une app iPhone d'ici le mois d'août. Tu vois ce que je veux dire? C'est
ouais.
Si ce n'est avant.
Je ne peux pas imaginer qu'Apple n'intègre pas une sorte de ChatGPT-like à Siri pour iOS 17. Et qu'il le décale, genre « Ah non, finalement, ça sera en janvier. Ah non, finalement, en mars, et ça finira par arriver. » Bon. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la partie IA. Et après le AI Time, vient le moment que tout le monde attend, le Twitter Time, avec le petit sad emoji. Mais il y a des choses intéressantes qui se passent. Et alors, bon, je vais vous résumer un petit peu. En gros, les checkmarks payantes, l'abonnement Twitter Blue, a véritablement été lancé il y a quelques jours de ça. Et les choses ne se sont pas parfaitement bien passées. Je vais brûler les étapes. Je vais brûler les étapes, mais je vous raconte un petit peu le résultat. C'est que l'abonnement Twitter Blue a une image tellement mauvaise aujourd'hui que, en gros, une bonne partie des abonnés, étant donné que les checkmarks legacy, donc les anciennes qui étaient attribuées à des journalistes, à des personnes connues, etc., ont été supprimées. Donc les seules marques bleues qui restent sont celles de ceux qui payent pour. Et il se trouve que, visiblement, une immense majorité de ceux qui l'avaient avant n'étaient pas intéressés par l'idée de payer pour, et donc ne l'ont plus. Et donc, les seuls qui restent, c'est ceux qui sont ni journalistes, ni célébrités, ni quoi que ce soit, et qui ont, a priori, soit, je schématise un petit peu, je sais que ce n'est pas 100% des gens qui sont comme ça, mais la plupart semblent être des gens qui ont soit une confiance aveugle en Elon Musk et veulent soutenir son projet. Bon, c'est pas, je crois, les gens les plus... les personnes que moi, dont je voudrais entendre parler moi, soit des gens qui ont quelque chose à vendre. D'ailleurs, j'ai vu une recrudescence des threads de « Ah, voilà, regardez les 10 manières de hacker votre vie pour être plus productif. Ah, voilà les
7e, 10
choses hyper inspirantes qu'avait dit Steve Jobs. »
Il y en a des tonnes.
C'est infernal, c'est du growth hacking, du sort de SEO. Vous savez, les sites, on parlait de sites de basse qualité tout à l'heure, les sites où il y a des listes de 10 trucs. Maintenant, c'est un petit peu le truc qui est mis en avant avec les badges de Twitter Blue, et ça remplit votre flux. Là où, et en plus de ça, il y a des gens avec des badges bleus qui sont soit des gens très énervés, soit des gens qui défendent Elon Musk quoi qu'il arrive. Bon, en gros, le badge bleu n'est pas associé à un contenu de grande qualité, on va dire ça comme ça. Et donc, les gens qui l'avaient avant n'en veulent plus. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire, d'une part, j'en veux pas, je vais pas payer pour, et d'autre part, commençons à bloquer tous les gens qui ont un badge bleu, parce que moi, j'aime pas vraiment ce contenu, donc allez, on bloque tout le monde. Et il y a un vrai mouvement qui s'appelle Block the Blue, qui a commencé à gagner en popularité, où les gens se mettaient à bloquer absolument tous les gens qui avaient un badge bleu. Ce qui, accessoirement, provoquait des problèmes pour le business model de Elon Musk, puisque, en dehors du fait que ça détruit l'image du badge bleu, il avait déclaré que le nombre de blocages de personnes serait tenu en compte dans l'algorithme pour réduire la visibilité des personnes qui se faisaient beaucoup bloquer. Bref, il a été en mode panique, Et il a commencé à redonner le badge bleu gratuitement et sans consentement aux gens qui ne l'avaient plus et qui ont, en gros, on va dire, plus d'un million d'abonnés. Et on a commencé à voir une série de gens qui disaient « Mais j'ai pas repris le badge bleu, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai pas payé pour, j'ai pas donné mon numéro de téléphone. » Alors que sur le petit label, il est écrit « Cette personne a un badge bleu parce qu'il est abonné à Twitter Blue, il a son compte vérifié, son numéro de téléphone est vérifié, etc. » Et ça a donc changé peu à peu l'image du truc. C'est un petit peu une marque, enfin c'est l'anathème, les gens sont presque en train de se battre pour ne pas avoir le badge bleu aujourd'hui, peut-être dans le petit microcosme dans lequel je vis, mais enfin c'est le microcosme des grands fans de Twitter qui adorent ou adoraient le produit jusqu'à maintenant. Mon ton vous donne peut-être une idée sur mon jugement de la chose, mais je vais vous poser la question sur votre avis sur ça, mais j'ai un avis assez tranché sur la manière dont c'est géré. Pauline, je ne sais pas si tu utilisais Twitter avant, avec assiduité. Oui. Qu'est-ce que tu penses de... pas du Twitter de Musk en général, mais spécifiquement de ce lancement de Twitter Blue officiel.
C'est chaotique. C'est chaotique, vraiment. Et je trouve que tu l'as très, très bien résumé, parce que je trouve que c'est un peu difficile à comprendre, parce qu'il y a eu tellement d'allers-retours, de décisions, et de « on l'enlève, et puis on ne l'enlève pas, et puis il y a le... y a, c'est payant, c'est plus payant ». Enfin, c'est tellement chaotique que c'est dur de s'y retrouver, déjà. Donc, merci de l'avoir expliqué très clairement. Mais oui, je voyais quand tu disais que plus personne ne veut avoir justement ce checkmark, je voyais sur Twitter, je crois que c'était ce matin, une meuf qui disait « ah ben super, avec les checkmarks, on peut savoir maintenant qui sont les gens qu'on n'a plus du tout envie de suivre et voilà quoi ». Et donc ça a créé une distinction vraiment très intéressante, je trouve, un peu de lutte des classes entre ceux qui ont payé pour et donc pas forcément dans un truc très méritocratique. Et les autres, et enfin il y a tout un truc, mais sur la gestion de Twitter, de toute façon depuis son rachat, moi je trouve que c'est assez chaotique. Et sur même, en fait, il y a des politiques qui sont en train de passer du côté de Twitter et qui sont très très problématiques à plein de niveaux, parce que là il y a la question du checkmark, mais il y a la question aussi des règles de modération sur Twitter qui changent depuis son rachat, et notamment moi je travaille beaucoup aussi sur les questions LGBTQIA+, et notamment maintenant sur Twitter on peut mégenrer les personnes trans sans que ce soit une possibilité de violation des règles communautaires. Donc en fait, ça, il y a une haine transphobe et raciste qui a explosé aussi depuis. Des règles de modération ont changé.
Ouais.
Donc en fait, c'est assez chaotique, je trouve, sur Twitter depuis quelques mois là.
Sur ce point, on va y revenir dans un instant parce que j'ai un autre, enfin la fin de mes sujets Twitter, parce que j'ai pas fini, hein, qui parle de ce problème spécifiquement. Donc on va y revenir, mais je donne la parole à Cédric donc sur le lancement du Twitter.
Bon, moi je suis alors sur le papier évidemment, je suis triste d'avoir perdu ma petite coche. C'est intéressant parce que tu sais, il y a un compte Twitter qui s'appelle Twitter Verified. Et qui jusque-là suivait tous les comptes vérifiés, ce qui te permet d'en avoir le nom. Il y en avait 1,5 million, en gros. Et bon, maintenant, ils n'ont plus qu'un abonné, je ne sais plus, ils sont plus abonnés qu'à un compte. Je n'ai pas regardé lequel. Est-ce que c'est comme le compte Twitter de Dieu qui ne suit que Justin Bieber mais ils ne suivent que Jack Dorsey, c'est très mignon, qui a du coup regagné sa coche, parce que Jack Dorsey, fondateur de Twitter, qui n'était plus vérifié sur Twitter, forcément c'était un peu curieux. Mais et on le voit, cette navigation à vue, elle est difficile. Et moi je suis un peu entre deux chaises, parce que autant non, quand tu dis il faut vraiment faire confiance à Elon Musk, c'est compliqué de lui faire confiance quand il est... vraiment dans de la navigation à vue, quoi. C'est jour après jour en disant flûte, ça marche pas, tentons ça, mettons ça dans ce sens là non, attention, bah du coup ça plante. Bah tu vois, c'est quand même un assemblage, c'est une espèce d'écosystème Twitter, donc dès que tu te touches à un truc, il y a un autre truc qui va pas. Mais en même temps, je suis d'accord avec lui sur un constat, c'est que le futur de Twitter, il est payant. Et je suis d'accord avec lui sur le fait que payer, c'est déjà un début de validation de ton identité, parce que tu vas pas pouvoir ouvrir 10 000 comptes, 10 000 faux comptes avec la même carte de crédit. Bref, ça, le fait de payer embarque avec lui un début de sécurisation. C'est pas encore une validation à l'instar de ce que tu peux voir ailleurs, où on te demande une pièce d'identité, un machin, je sais pas, etc. Et ça réglerait pas le problème des comptes pseudonymes, mais, euh, Mais je, voilà, moi, je serais pas, tu vois, à la limite, si dès le début, il avait dit, bon, à partir de maintenant, Twitter, c'est payant, c'est 5 balles par mois, ou c'est ce que tu veux. Ou alors, à côté de ça, je vous crée aussi un Twitter Blue, mais avec une vraie validation d'identité, si vous la voulez, des services en plus, etc., etc. Le problème, moi, je me suis posé la question en disant, bon, je vais perdre ma checkmark, ok, de toute façon, à quoi servait la checkmark? Oui, à empêcher que d'autres gens disent je suis Cédric Ingrand, ouais, enfin ça va, ils doivent pas être très nombreux. Et mais du coup, je me suis posé la question de la valeur, de pourquoi est-ce que je paierais 8 euros par mois. J'y ai pas trouvé la valeur, donc je l'ai pas fait. Oui. Maintenant, bon, évidemment, on tombe dans l'excès inverse qui est de dire mais alors si t'as une checkmark, c'est que t'es méchant. Bon, je sais pas, moi je connais des gens qui ont pris la checkmark d'abord pour aller voir ou pour pouvoir faire des tweets plus longs ou pour tout ça. Ça n'en fait pas des gens méchants.
C'est pour ça que j'ai dit c'est pas l'intégralité. Hein. J'en connais aussi qui sont des gens sympathiques.
La question, c'est l'équation économique. C'est est-ce que demain il peut dire bon, allez, c'est fini, voilà, dans 30 jours, c'est payant. C'est 4,99. Si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir. On sera moins nombreux, mais ce sera moins le bordel. Les marques pourront faire ce qu'elles veulent, enfin, etc. Ou alors te mettre un tarif, tu sais quoi, te mettre un tarif, ça c'est évoqué par d'autres, te mettre un tarif selon ton nombre de followers. Parce qu'évidemment, que tu aies 500 followers ou 50 millions, la valeur de ton compte pour toi n'est pas la même. D'ordinaire, si tu es 50 millions, c'est...
Ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est un peu que les gens n'ont pas du tout envie de payer qu'ils aient 5 followers ou 50 millions, à moins qu'ils soient, comme je disais, des fans d'Elon. Mais le truc, c'est que sur le principe, là où je pense que tout le monde sera d'accord, un Twitter payant, c'est pas une mauvaise idée. Un Twitter premium payant, c'est pourquoi pas, peut-être qu'il y aurait des services intéressants à donner. D'ailleurs, on en parlait, mettre des vidéos, la possibilité d'avoir des tweets plus longs. Enfin, il y a complètement des trucs à faire. Là où c'est impressionnant ce qu'il a fait Elon Musk, c'est qu'il a réussi à faire de ce lancement une telle catastrophe avec une gestion d'image tellement dramatique que c'est devenu une marque de honte, ce blue check mark. C'est pas encore trop tard peut-être pour corriger le tir, c'est possible, mais franchement, de tous les scénarios que j'avais imaginé au rachat de Twitter, j'aurais pas pu imaginer une telle catastrophe. Là, c'est la première fois où vraiment je vous dirais au-delà de toute l'animosité que je peux avoir pour la manière dont Elon Musk gère les choses, là, c'est la première fois où je me dis qu'il y a un danger pour la marque. Véritable danger pour la marque. Parce que son projet de base, de rendre certains trucs payants, est en train de se transformer en une image négative, je disais dans un tweet. C'est un petit peu le contraire de la méthode des marques de luxe. C'est-à-dire que les marques de luxe, elles te créent une envie, une sorte d'exclusivité, un besoin, un sentiment de fierté d'avoir le truc. Là, il a fait l'inverse. Il a créé une sorte de honte et les gens fuient la checkmark. Et ce genre d'image, ça peut rester longtemps, je crains. Donc, et accessoirement, il y a eu des épisodes absolument ridicules, encore plus que depuis le début, où l'un des gros comptes de Twitter, qui est un compte de mème un petit peu stupide, mais c'est Drill, qui était tellement opposé au truc, il a dit « je veux pas de la checkmark ». Alors il a aussi arrivé « je vais te la remettre quand même, hein, je te la paye pour toi ». Entre parenthèses, le fait de le faire comme il le fait Elon Musk, c'est possiblement illégal parce que ça laisse entendre que les personnes soutiennent ou endorsent, comme on va dire en français, valident le truc. C'est-à-dire que ça dit qu'ils ont payé, qu'ils ont donné leur numéro de téléphone, alors que ce n'est pas vrai. Et il y a des gens très connus dont il peut servir de l'image. Il y a des gens, il y a des célébrités qui sont mortes, Kobe Bryant, Chadwick Boseman, etc. Enfin, c'est fait n'importe comment. Bref, Jackson, Drill, il récupère son checkmark. Il dit, mais j'en veux pas, moi. Donc, il utilise une fonctionnalité des checkmarks qui est que pour vérifier ton identité, il te l'attribue. Et si tu changes le nom d'affichage sur Twitter, tu la perds. Donc, il dit, OK, je vais changer mon nom. 2 minutes plus tard, elle revient. Oh, je rechange mon nom. 2 minutes plus tard, elle revient. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit ? Je peux imaginer les gens qui étaient en charge de ça, qui ont eu le mot du boss qui disait, oh, on lui met la checkmark. Et là, il voit, ah merde, il l'a perdu à cause de notre système qui l'enlève par sécurité pour pas que les gens usurpent l'identité de quelqu'un d'autre avec une checkmark. On fait quoi, Bob ? On lui remet ou... Ouais, mais il y a Elon, il va pas être content. Allez, vas-y, remets-lui. Bon, maintenant, il ne la chope plus. Mais ça contribue à l'image dramatique de ce lancement de Twitter Blue qui, à mon sens, est vraiment dommageable pour la marque, quoi. On va voir comment ça va évoluer. Mais moi aussi, je me disais, bon, peut-être que là je pense, enfin, je veux pas de cette marque. C'est devenu une fierté de pas l'avoir, quoi. Bref, L'autre élément qui est important à noter, parce que tout ça, c'est un petit peu le cirque, et c'est peut-être dangereux pour les revenus, qui d'ailleurs ne sont pas si importants que ça, hein, mais les revenus d'abonnement de Twitter, ben, le truc beaucoup plus important, c'est que discrètement, après avoir affiché des labels sur, vous vous souvenez, la question des médias d'État, qu'est-ce que ça veut dire, médias d'État, médias financés par l'État, contrôlés par l'État, financés par le public à travers une taxe, avec la BBC, le NPR, etc. Bon, ben finalement, ils ont tout supprimé, il n'y a plus de labels, sauf que dans le même temps, ils ont supprimé les labels sur les vrais comptes de médias de propagande des pays totalitaires. Et donc, et en plus de ça, ils ont supprimé la limite de visibilité de ces mêmes médias, notamment des médias du Kremlin, des médias russes. Et donc, on se retrouve avec une situation où peut-être que Elon Musk, d'ailleurs, j'en sais rien si c'est sciemment, mais il agite les mains du côté de Twitter Blue. Et pendant ce temps-là, la visibilité des comptes de vrais médias de propagande, pour le coup, ils ne sont pas, NPR ou la BBC, et on peut discuter de l'influence de l'État sur ces médias-là. Mais on ne peut pas discuter de l'influence de l'État sur, les médias chinois ou Russia Today, par exemple. Là, ce n'est pas du tout la même catégorie. Eh bien, ces médias-là se retrouvent sans aucun contrôle, sans aucune limitation. Et je trouve ça affligeant, quoi. Mais...
En fait, c'est tous ces problèmes qui requièrent de la nuance. Et c'est vrai que c'est le problème qu'ils avaient. C'est-à-dire que partie du truc en disant, bon, si t'es un média public, t'es un média public. Alors après, ils ont introduit un peu de nuance en disant, média public et média étatique, en gros, à la louche. Mais là aussi, t'es dans une telle... Enfin, tu vois, c'est quoi l'épaisseur du papier entre les deux, parfois. Y a des fois, c'est très clair, il y a des fois, ça l'est moins, là, des fois, ça l'est pas du tout. Et donc, c'est tellement facile de se planter. Le problème, c'est que, voilà, t'es face à une boîte de quelques milliers de personnes qui en gère quelques centaines de millions. Donc, de toute façon, tu n'as pas le temps de la nuance. Alors, à la limite, ils reviennent à la situation précédente. Ce n'était pas génial, mais au moins, il n'y avait pas des trucs qui pouvaient être induits en erreur.
Ces labels et ces limitations de visibilité,
mais ça nuit à la confiance
pour une raison. Tu vois, il y avait une cause à ces changements. C'est 10 ans de pratique des réseaux sociaux et de gestion des messages de différents types de médias et de Twitter, enfin de Twittos, qui fait qu'ils sont arrivés à cette solution. Et Elon Musk dit « Non, c'est mieux s'il n'y a personne, il n'y a rien, c'est bon. » Et Pauline, dis-moi, tu soupires dans le fond.
Mais en fait, il y a aussi un truc qui est que il y a l'économie de Twitter en tant que marque et en tant qu'entreprise, mais je pense qu'il y a aussi un truc qu'on ne doit pas éluder, qui est que les plateformes ne sont pas neutres politiquement, et qu'il y a aussi parfois des stratégies politiques et une éditorialisation de certaines choses. Et en fait, moi, la question que je me pose, en fait, avec toute cette histoire sur les checkmarks, et particulièrement en ce qui concerne les médias ou les personnalités publiques, c'est, en fait, à quel point certaines décisions d'Elon Musk sont pour le bien de la marque et de la plateforme, et lesquelles sont des décisions politiques dans une volonté politique, parce que Elon Musk est quelqu'un de très puissant, et au-delà de l'économie, au-delà de la technologie, je pense qu'il a aussi des intérêts politiques sur certains sujets et des opinions qu'il a envie de pousser, comme plein de gens, hein. On a plein à penser des trucs, on a envie qu'il y ait plein d'autres gens qui pensent comme nous. Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est à quel point il pousse des décisions politiques et quelles conséquences ça peut avoir sur la manière dont c'est géré Twitter. Mais du coup, là, ça, sur ces questions de médias affiliés au gouvernement, et notamment quand on sait toute la question autour de la désinformation, et notamment sur des contextes très récents comme la guerre en Ukraine ou plein d'autres situations, mais ça pose énormément de questions sur aussi notre propre éducation aux médias, parce que en fait, ça fait 10 ans maintenant, on a appris un peu comment Twitter fonctionne, comment se prémunir de certaines fausses informations. Mais là, comme tout change, j'ai l'impression qu'on doit un peu repartir à zéro aussi. Mmh. C'est plus les mêmes facilités aussi, quoi.
Tu parles de la guerre en Ukraine. Les limites sur les comptes du Kremlin avaient été imposées après le début de la guerre en Ukraine, effectivement. Et, on pourrait être généreux et dire que Elon Musk agit simplement en fonction de ses croyances presque philosophique, je dirais, qui est la question du... Enfin, lui, il est libertarien, donc il veut que tout soit libre partout et que les gens se fassent leur avis, ce qui, sur le papier, est une idée louable, mais on sait... Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, justement, en 10 ans de Twitter, que c'est pas comme ça que ça marche, 10 ans, 15 ans de Twitter, que ça marche pas.
C'est pas aussi simple, quoi.
C'est pas aussi simple. Et le fait de libérer la parole du Kremlin, ça n'est pas sans conséquence, je pense qu'on est d'accord, même si on est hyper orienté. Et accessoirement, bon, je vais pas partir dans cette direction. Le truc que je dirais, c'est que vous vous souvenez qu'il a fameusement dit... non, mais les gens savent ce que je pense dans l'émission, on en parle tout le temps. Mais il a dit « Ah, ça suffit ce système de paysans et de seigneurs où les gens se voient attribuer leur checkmark par une autorité supérieure à laquelle ils ne comprennent rien, élitiste, machin. » Et tout à coup, quand le bordel arrive, comme à chaque fois avec ce genre de personne qui est dans ce genre de mouvance, « Eh ok, les principes, bon, ça va jusqu'à ce que ça aille plus, et je vais réattribuer la checkmark aux gens à qui j'ai envie d'attribuer la checkmark. Ok, toi, t'es célèbre, je t'aime bien. Toi, t'es... Bon, ok, j'ai oublié. Toi, tu la chopes quand même. »
Individuellement,
Le but, c'est ce qu'il essaie de faire depuis le début, c'est d'essayer de donner de la valeur à la checkmark assez pour que le fait de passer au payant passe tout seul, tu vois. Mais c'est là le problème, parce qu'en fait, en la rendant payante, il la dévaluait, donc c'est un peu compliqué. Tu vois, essayer de vendre d'un côté ce que tu donnes de l'autre, c'est un peu curieux. D'où d'ailleurs, tu sais, les checkmarks dorés pour les entreprises ou les grands médias, etc. Ça, à la limite, c'était peut-être ça la solution. C'était peut-être de dire, bon,
y a plein de marques
je vais pas essayer de vous donner ce que je vous vends, mais ce que je vous vends sera différent.
Ouais. Bon, tu veux conclure, Pauline, et puis on avance.
Je ne sais pas si je veux conclure, mais juste, non, je pense qu'en fait, il faut être très... comment dire, il faut être très... je pense à checker ça de près. Et en fait, il y a un truc aussi, c'est que je pense qu'en tant que journaliste, ça nous intéresse. En tant que personne des médias, ça nous intéresse et tout. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il ne faut pas oublier que Twitter, ça représente quand même... pas une majorité de personnes en termes d'inscription sur les réseaux sociaux, comparé à Instagram par exemple ou pas comparé à Facebook, et qu'il y a plein de gens qui comprennent pas là tout ce qui se passe avec Twitter, et je pense qu'il faut vraiment avoir un œil dessus un peu sur qu'est-ce que ça peut impliquer en termes démocratiques, en termes journalistiques et tout, et de garder un œil dessus. Mais oui, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'on va continuer un petit peu le shit show, quoi, le cirque, ça va être...
Espérons que ça
soit... Moi, j'ai aussi rigolé, mais c'est...
Faut pas oublier aussi qu'on a une tendance naturelle à faire des hot takes, tu vois, à surréagir dans l'instant, en disant « Ah, c'est affreux !»
La catastrophe du lancement du matin, c'est pas une surréaction, ouais, mais... hein. Ça, c'est vraiment...
Je suis retombé ce matin sur un post Facebook de moi, qui a 9 ans, et qui disait « Mark Zuckerberg, jamais j'irai sur l'appli Messenger ». Souviens-toi, Messenger était à l'intérieur de Facebook à l'époque. Et non, t'as déjà WhatsApp. Bref, truc oublié, mais j'avais même complètement oublié qu'il y avait un Messenger qui n'était pas Messenger. Bref, voilà, la surréaction, c'est toujours... C'est le problème quand tu commentes en direct.
Évidemment, on commente à chaud, donc, enfin à chaud, toutes les semaines. Donc évidemment, ça va être un petit peu particulier. Ce que je dirais quand même, c'est que les conséquences sont réelles et peut-être pas pour le cirque de Twitter Blue, encore que ça peut avoir un effet rebond. Ça, c'est une chose. Mais la question, si vous retenez qu'une chose, c'est la question de la fin de la limite de visibilité des comptes de propagande et du label. Ça peut vraiment avoir des conséquences réelles parce que oui, Twitter est un tout petit réseau social, mais c'est le réseau social où les informations circulent. Et donc, ça a des conséquences qui sont plus importantes que ce que ne pourrait laisser penser la taille du nombre d'utilisateurs de Twitter. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les marques au monde ont leur compte Instagram et leur compte Twitter sur leur pub, parce que ça veut bien dire que Twitter est important. Bref, voilà pour les news du moment sur l'IA et sur Twitter. On va continuer avec des news un petit peu plus diverses, des news d'ailleurs. Avant ça, je voudrais tout de même vous rappeler que... Vous rappelez quoi ? Vous rappelez que Patreon existe. Voilà, il y en a qui suivent. Patreon existe. Et sur patreon.com/rdvtech, vous pouvez soutenir mon travail, vous pouvez soutenir ce que je fais pour une somme modique. J'irais même jusqu'à dire une somme que vous choisissez vous-même. Vous attribuez un certain montant aux épisodes, puis à la fin du mois, vous êtes débité tout simplement et vous avez droit à des bonus incroyables, des trucs de fou comme l'absence de pub, l'absence de ce message de promo au milieu, c'est rendez-vous tech premium. Vous avez aussi des petits after-shows, vous avez des éditos, vous avez tout plein de choses, mais surtout, vous avez, j'espère, la fierté de soutenir un créateur que vous appréciez, qui n'est pas une IA ou pas encore. Et déjà, c'est important aujourd'hui, mais je pense que ça va le devenir de plus en plus, de soutenir le travail que vous appréciez. Alors, tout le monde ne peut pas soutenir tout le monde, hein, évidemment, mais un ou deux créateurs ou créatrices dont vous appréciez le travail, eh ben, ça peut valoir le coup de sortir la carte bleue un petit peu. Si vous n'avez pas les moyens, évidemment, continuez à écouter, parlez-en à vos amis, hein, dites le rendez-vous tech, c'est génial, il faut écouter. Mais si vous avez les moyens, bah, peut-être une petite somme chaque mois, un petit budget, comme vous avez Netflix, les croissants, tout ça. Eh ben, vous pouvez attribuer aux créateurs que vous appréciez patreon.com/rdvtech pour faire vos premiers pas dans ce monde merveilleux.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et on continue avec le reste de l'actu. Le reste de l'actu, on va commencer par Apple. Parce qu'évidemment, il faut toujours parler un petit peu d'Apple. Je vous réserve les trucs intéressants. Hein. Je ne parle pas de toutes les rumeurs Apple. Vous en êtes témoin si vous écoutez l'émission régulièrement. Le truc intéressant que j'ai vu récemment, c'est des nouvelles sur leur casque de réalité augmentée, au-delà de la batterie qu'on porterait dans la poche, qui aurait un chargeur, une sorte de MagSafe hein, avec un format différent. Au-delà de ça, ce qui m'a frappé, c'est visiblement l'approche qu'ils semblent prendre au développement, qui serait d'avoir autant de fonctionnalités et d'apps que possible. On aurait des petits widgets, mais des apps aussi iPad ou des apps iPad qui fonctionneraient véritablement dans votre interface de réalité augmentée, avec des changements minimaux pour qu'elle puisse être adaptée à ce casque. Plein d'applications Apple qui font plein de choses différentes. Et avec l'utilisation qu'ils constateraient chez Apple, eh bien, ils orienteraient le développement du produit à la manière dont ça s'est passé pour l'Apple Watch, qui était en fait le produit lancé sous l'ère Tim Cook. Moi, je mettrais aussi les AirPods, mais bon. Le produit lancé qui a connu un énorme succès, évidemment. Et c'était exactement la même approche. L'Apple Watch, je ne sais pas si tu l'as acheté tout de suite, toi, Cédric, mais au début, c'était « Alors, tu peux faire ça, ça et ça ». Ce qu'il reste de l'Apple Watch aujourd'hui, c'est genre 20% de ce qui avait été proposé avec.
Oui, c'est-à-dire que c'était l'écran de plus avec son propre magasin d'applications, ce qui est toujours le cas. Sinon que... Alors, ce n'est pas tellement qu'ils ont, s'ils ont suivi l'utilisateur.
Aujourd'hui, c'est rare que Apple s'inquiète. Notification... En tout cas,
Oui. C'est ça. C'est ça, tu as tout. Fitness, notification, identification, paiement, ce genre de choses. Mais tu vois, c'est vrai qu'au début, on se disait, mais comment est-ce qu'on va mettre un client mail sur la
boîte?
alors que non, quoi. Et alors que si, pour envoyer des messages, reconnaissance vocale, etc. Non, non, très bien. Mais c'est intéressant
mais
parce
que Apple,
c'est quand même pas dans leur
culture
de... Mais du coup,
pour le casque, l'approche, quoi.
Oui, c'est ça. C'est pas dans leur culture d'aller demander son avis à l'utilisateur. Mmh. C'est là aussi fameusement, comme tu dirais, ce que disait Steve Jobs en disant, tu vois, si on avait demandé à l'utilisateur à quoi doit ressembler l'iPod, on aurait abouti à un produit très différent et pas forcément désirable. Mais enfin, je sais pas. Moi, ce truc sent la panique. Je sais pas pourquoi.
Ouais. Tu le sens pas.
Bah parce que, enfin, je suis désolé. Ou soit qu'on se l'est déjà dit. soit en fait ils sont en train de nous bourrer le mou en disant hey, 3 000 $ et donc quand ça va sortir, je sais pas, à 12,99 on va dire ah mais attends c'est pas cher en fait, tu vois, voilà, alors que c'est le prix d'un très gros iPhone, et soit c'est vraiment 3 000 $ et je ou alors là le marché il est dans l'épaisseur, de ton MacBook Air, tu vois ce que je veux dire,
dans le très très fin le non mais 3 000 $ pour les développeurs, c'est pas le produit grand public ça, mais bon.
C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais il manque un use case, quoi.
Mais c'est ça, ils vont chercher. La montre, parle il manquait d'AR, un use case. Il manquait un use case pour la montre. Là, ils vont aller le chercher. Et ils vont... J'essaye de faire le... Tu vois, le cheerleader de Tim Cook. Mais ils vont aller le chercher. Ils vont trouver, grâce à l'utilisation que les développeurs vont... Que les utilisateurs vont trouver à cet appareil.
Non, mais comme toujours en pareil cas, tu te dis, ce truc est opéré par des gens très intelligents. Qui donc forcément en savent plus que nous et en plus travaillent vraiment sur le sujet et sont pas comme tu vois, au comptoir du bar en disant non moi je pense que ça va pas marcher, tu vois, non ils ont des idées, des datas, des machins, ouais, et okay. Puis ils en ont sous le pied en termes à la fois de design industriel, enfin voilà, donc ouais. Ça va être probablement un truc merveilleux, mais je suis toujours comme je l'étais sur les casques VR. Et je déteste dire que j'avais raison, mais bordel, j'avais raison, quoi. C'est-à-dire, tu vois, moi j'y étais dans la salle où on avait tous des casques VR quand Zuckerberg est monté sur scène. Et de fait, cette image était ridicule. Enfin, c'était pas un exemple d'un futur désirable. Mais ça l'est toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de killer app. Il n'y a pas un truc où tu dises, ah ouais, non, là, je suis forcé d'y passer. Ben non, tant qu'il n'y a pas ça, voilà.
À défaut de killer app, l'idée de... Je vois pas ton poignet, je sais pas si t'as une Apple Watch, Pauline.
Non,
d'accord. Non. Est-ce que tu peux imaginer que... alors, clairement, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ça, c'est long démarrage. Est-ce que tu penses que l'idée de se lancer avec plein d'applications possibles est la bonne méthode pour essayer justement de trouver des usages? C'est, comme le disait Cédric, c'est un petit peu surprenant pour Apple qui généralement dit « Ah, ton truc, tu l'utilises comme ça. You're holding it wrong. C'est pas comme ça qu'on utilise l'iPhone. C'est toi qui as tort et nous qui avons raison. » Une approche un petit peu différente. Mais peut-être que c'est la bonne pour ce genre de produit qui n'a pas une utilisation définie.
Mais je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, sur les casques VR, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse montagne qui en a été faite il y a quelques années quand ça a commencé à être lancé. Et que quelques années plus tard, en fait, en termes d'usage... compliqué, quoi. En fait, il y a plein d'usages auxquels on pourrait penser. Je pense notamment dans le secteur de l'éducation, sur, je sais pas, j'avais vu pour la conduite aussi, pour faire de la simulation de code. Il y a plein de trucs pour le domaine de la santé, notamment pour les étudiants, etc. Il y a plein de choses à faire. Le jeu vidéo, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que le passage à tout le monde a un casque VR chez soi, c'est pas quelque chose sur lequel on est prêt, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a des trucs avant ça sur des outils qu'on a déjà, et je pense notamment au smartphone, qu'il faut régler et qu'il faut améliorer. Ne serait-ce que moi, je suis pas une grande fanade d'Apple, à part que j'ai un iPhone, et c'est beaucoup pour le travail, parce que voilà, les journalistes ont téléphone beaucoup, et on envoie beaucoup d'images, et Twitter, et plein de trucs. Mais ne serait-ce que, en fait, régler les problèmes de la batterie, régler les problèmes de l'obsolescence programmée, et je pense qu'en fait, je pense qu'il y a plein d'autres problèmes à régler sur d'autres outils, avant que tout le monde se dise « Ah, je vais acheter un casque VR parce que j'en ai besoin. » Parce que ça reste encore super rush et pas forcément très accessible aussi pour...
C'est pas la priorité, ouais, peut-être. Mais c'est intéressant parce que je comprends, j'entends ce que tu dis sur ce point, mais en même temps, au début de ta phrase, de ce que tu disais « Ouais, mais il y a plein d'usages intéressants, genre dans l'éducation, dans la médecine, etc. » Et je me demande si Apple n'a pas la masse critique, justement, pour pouvoir... déclencher ce genre d'usage et donner l'outil aux développeurs pour dire bah, essayez d'utiliser pour ci, pour ça et pour ça, ça pourrait pas justement débloquer ce genre de choses. Après, évidemment, c'est pas avec le casque à 3 000 $, c'est la version 2, la version 3 qui sera plus légère, plus machin, plus, un peu moins horrible à porter, que ça pourra donner quelque chose. Mais bon, écoutez, on verra déjà s'il le présente à la WWDC en juin. Ça reste la grande inconnue, même si certains semblent penser que ça sera le cas.
Et s'il ne la présente pas, là, tout à coup, on partira
en live sur ils ont peur. alors que c'est comment faire des choses sur du vide.
Bah écoute, pas du vide du tout, c'est ce qu'il y a au milieu du Pixel Fold, donc possiblement le téléphone qui va être présenté dans une dizaine de jours à la Google I.O., un petit peu plus, une quinzaine de jours à la Google I.O. par Google, c'est le téléphone Pixel pliable, qui coûterait le prix d'un Samsung Galaxy Fold, etc., mais qui serait donc le téléphone pliable de Google, avec des caractéristiques qu'on peut attendre d'un téléphone pliable, un écran à l'extérieur et puis un grand écran à l'intérieur. Il semble qu'il y ait toujours une marque sur la pliure du téléphone, donc ils n'ont pas complètement réglé ce problème, mais y avait plusieurs marques qui avaient déjà lancer des téléphones pliables, là ça reste qu'une rumeur, ça serait quand même significatif que Google, la marque, se lance là-dedans, même s'ils n'ont jamais vendu, c'est pas eux qui vendent le plus grand nombre de téléphones sur Android, c'est quand même une étape significative pour les téléphones pliables, je pense.
Oui, là aussi, problème de désirabilité.
Et problème de solution en quête de problème, c'est ça ? Problème de problème, c'est un problème de problème. À propos de problème, tiens, on parlait d'éducation, il y a eu un rapport assez intéressant sur les Chromebooks et les problèmes que posent ces Chromebooks, parce que vous vous souvenez, il y a quelques années, on disait les Chromebooks, c'est génial, ça coûte pas cher, toutes les écoles s'en équipent, machin. Et bien le problème, c'est qu'ils ne sont pas maintenus et donc ils sont plus assez puissants pour faire tourner, même si c'est qu'un navigateur, bah, ils font plus tourner les choses. Et puis surtout, ils sont pas réparables. Et donc, 3 ans après, il y en a une quantité inquiétante qui sont plus utilisables chez les écoles qui en ont acheté beaucoup. Et donc, ça se pose des problèmes de prix, d'une part, et de merde, sustainability. Désolé, je lis les trucs en anglais.
D'écologie,
voilà. Voilà, d'écologie.
Durabilité, enfin.
Durabilité, merci. Donc, c'est quand même un combo assez fou, parce que poser des problèmes de coût et de durabilité en même temps, généralement, c'est l'un ou l'autre. Genre, t'achètes un truc pas cher, et donc, c'est pas très écolo. Mais acheter un truc cher, qui revient cher au final parce que tu dois les remplacer, qui en plus n'est pas écolo... C'est un petit peu la déconfiture avec les Chromebooks, il semble. Un petit peu, c'est un rapport, hein, mais quand même.
Non, mais et puis en plus, pas ça, ils les ont mis dans les mains des enfants, ce qui est quand même la dernière chose à faire si tu veux qu'une machine dure. Je peux en témoigner, parce que je suis le premier à avoir acheté des Chromebooks pour deux des miens au moment du confinement ou un peu après. Alors c'est vrai que c'était des machines chouettes, simples, sécurisées en plus. Et là, il faut reconnaître à Google d'avoir vraiment mis en place un système de contrôle parental très Pyongyang en fait, mais efficace. C'est-à-dire que voilà, c'est très drôle. Un jour, je vous raconterai peut-être. J'ai le droit à tout ce que mes enfants cherchent sur Google, parce qu'ils ont accès à Google. Ils ne peuvent pas après cliquer sur un lien pour aller sur autre chose sans que je l'autorise, mais ils ont accès à Google, un Google filtré hein, quand même un peu. Mais non, j'ose pas vous dire ce que ma fille de 7 ans cherchait sur Google.
ne dis pas, j'ai peur.
Non, mais c'était Draco Malfoy sans chemise.
Alors, c'est là que je bénis mon adolescence dans les années 2010, parce que je pouvais chercher ça sans contrôle parental, parce Exactement. Que mes parents savaient pas ce que c'était un contrôle parental.
Donc elle peut avoir le panoptique des résultats sous Google Images, mais elle peut pas aller plus loin. Bref, mais le problème c'est quand même que ces enfants traitent ça comme si c'était un fétu de paille, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu le retrouves en dessous des coussins, dans le lit, dans le machin. Donc c'est vrai que c'est pas des machines qui durent extrêmement longtemps. Elles sont pas mal faites, elles sont leur premier attrait, c'est quand même d'être simple et pas cher. Après, elles sont pas plus réparables qu'un laptop sympathique et très fin. Donc, oui, c'est vrai qu'il y aurait moyen de faire des machines un peu plus réparables. Ça, un Chromebook réparable ou upgradable, ce serait vachement bien.
Sur ce, ils sont tellement bon marché, je sais pas si on peut faire très bon marché et très réparable en même temps, mais peut-être. Mais c'est marrant.
Tu peux faire 50 balles de plus et tu vois, parce que la finesse n'est pas forcément un attrait indispensable. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles tu peux transiger tout à coup.
Pendant le stream Battle 4, justement, il y avait une personne qui était là, et quand on parlait des vieux ordinateurs, j'ai dit à un moment que j'avais eu un vieux MacBook et que j'en avais changé vers 2013-2014. Et la personne à laquelle je l'avais donné, que je connaissais pas très bien, j'avais fait un appel, machin, je voulais pas le jeter, quoi, il valait pas grand-chose, était dans la chatroom et m'a dit « Ah oui, mais c'est moi qui l'ai chopé !» C'était Sandrine, elle m'a dit « Ah, c'est moi qui l'ai eu, je l'ai donné à mon mec pour qu'il programme, etc. » Et il marche encore, là encore, il marche encore. C'était un Mac que j'avais acheté, donc sans doute, enfin quelques années avant, j'en sais rien, mais peut-être 2009, quelque chose comme ça. Je l'ai abandonné lâchement en 2013-2014, peut-être 2014, peut-être 2015 même, et il marche encore, donc ça fait 15 ans, j'étais surpris, quoi. Je me suis dit « Bon, il va plus. »
Ouais.
Donc, bon, bref. Les Chromebooks, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour ces aspects. Savez-vous que Netflix va enfin dire au revoir à son business principal, non, son business d'origine, qui était l'envoi de DVD de location par enveloppe, par le vrai mail? 25 ouais. ans après, c'est terminé. Mm-hmm.
Il était temps.
La fin d'une époque.
La fin, non, ouais, exactement. Bon, nous, on ne l'a jamais eu. Hein, mais... si je vous dis Quickster, est-ce que vous savez ce que c'est?
Alors, ça, c'est un nom d'application pas très discriminant, mais...
Non, c'est le service... Quand Reed Hastings, le CEO de Netflix, a voulu séparer les deux business, streaming et envoi de DVD, il a voulu donc séparer pour que l'abonnement ne donne droit qu'à l'un ou l'autre. C'est très mal passé, mais la boîte qui devait faire l'envoi de DVD devait s'appeler Quickster, si je ne me trompe pas. Mais ce n'est pas ça qui est important. Moi, j'avais l'impression que c'est genre... Ouais, c'était genre il y a 5-6 ans que ça s'est produit, ça. Non, non, c'était 2011 qu'il a tenté de diviser les deux business. 2011! C'est il y a 13
c'est
ans!
C'est pas si longtemps.
12 ans.
C'est pas si longtemps que ça. Hein.
C'est pas si longtemps que ça, ouais. Et entre parenthèses, il continue à augmenter le nombre d'abonnés chez Netflix. Donc, on les a donnés, genre ça y est, c'est fini, Netflix, Apple TV+, et Disney, et Paramount, et machin. Faut pas les enterrer tout de suite. Hein. Une autre chose... Intel est en train d'arrêter la production de ses processeurs block scale qui sont conçus pour miner du Bitcoin. Alors la chute du Bitcoin, etc., c'est un signe de plus. Nike est en train de lancer sa vente d'une collection de baskets virtuelles en NFT sur sa plateforme Swoosh. À mon avis, d'ici 2-3 mois, il y a un petit communiqué de presse très discret qui dit Netflix Allez. Interrompt ses efforts dans le domaine des NFT. Ils ont été au bout de celle-là, hein, c'est tout à leur honneur. Mais, alors, je suis taquin avec les NFT et la crypto. Les investissements dans le domaine du Web 3 ont chuté de 81% d'une année sur l'autre sur le premier trimestre 2023. Ouais. Et vous pourriez vous dire, mais 80%, ça y est, c'est fini, la crypto est morte, machin. Mine de rien, enfin, il y a deux manières d'approcher cette news, ça reste quand même 1,7 milliard d'investissements sur le seul premier trimestre de 2023. Donc, OK, c'est 80% de moins, mais c'est pas rien. Donc, bon, moi, je ne suis pas encore prêt à enterrer complètement, même si je me moque et je ris et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, je ne suis pas complètement prêt à enterrer ni le Web3, ni les crypto-monnaies, ni tout ça.
Non.
Bon, on verra, mais ça bouge encore.
C'est une nécessaire consolidation, tu vois ce que je veux dire.
Au minimum, c'est une nécessaire. Si on est généreux, on voit ça comme ça, on peut penser que tout se casse la gueule, mais oui, il est tout à fait possible que ça soit consolidation et la fin du bordel, quoi. Quoi d'autre? Alors, Snapchat, j'ai vu Ratatouille, mais on y arrive. Snapchat continue à croître. Là encore, une boîte qu'on disait morte ou presque, il y a quelques années, ils ont commencé à tenter de remonter la pente, et franchement, moi, je leur aurais pas donné grand-chose. Au-delà du fait qu'ils continuent à ajouter des abonnés, des utilisateurs mensuels plutôt, on est autour, à peu près dans la même fourchette que Twitter, hein, autour de 300-350 millions d'utilisateurs mensuels. Au-delà de ça, ils ont réussi une force, un truc incroyable, qui est qu'ils ont 3 millions d'abonnés payants. 3 millions. Twitter, selon les estimations, on est à 120 000, hein, 120 000 aujourd'hui. 3 millions, ça commence peut-être à devenir des sous raisonnables. Enfin, en tout cas, Snapchat, je suis sûr que ça ne leur fait pas de mal. C'est encore populaire. Alors là, je me tourne vers notre spécialiste jeune. Comment ils ont fait, mais...
Notre ambassadrice de la jeunesse.
C'est ça. Ils réussissent quand même leur coup de manière assez incroyable chez Snapchat.
En fait, Snapchat, c'est assez marrant parce que depuis que je travaille sur les nouvelles technologies, Snapchat, c'est un peu toujours le vilain petit canard un peu des social media que je traite. Alors qu'en fait, c'est vraiment... En tout cas, en France, si on prend vraiment l'exemple que français... C'est l'application qui est l'une des plus populaires chez les jeunes. Là où, moi j'ai eu Snapchat quand j'étais ado, mais je pense 1 ou 2 ans, et à l'époque où c'était vraiment... la qualité d'image n'était pas ouf et c'était vraiment pas très ouf en fait, Snapchat. Et là maintenant, c'est tous les ados ont Snapchat et il y a énormément de business sur Snapchat. Alors il y a du business illégal, il y avait des super séries de certains médias, je pense à Street Press notamment, sur les vendeurs de shit sur Snap, mais il y a aussi des commerces beaucoup plus légaux, genre tous les gens qui vendent de la pâtisserie sur Snapchat, c'est assez impressionnant. Vraiment, il y a des commerces de tiramisu et de gâteaux assez impressionnants.
Genre tu commandes et tu te fais livrer ensuite, ouais. C'est des commerces locaux bien sûr, mais...
D'accord. Ouais, c'est genre, souvent, c'est des ados ou des jeunes adultes qui aiment bien, genre, faire de la pâtisserie, ce genre de trucs.
Mais comment tu fais pour payer concrètement ? Tu peux passer par Snapchat
Soit c'est un peu en mode Le Bon Coin, c'est-à-dire tu te réunis à un endroit et tu donnes de l'argent. Je ne crois pas qu'il y ait un système de paiement qui soit possible sur Snapchat. Mais en fait, Snapchat, c'est vraiment un endroit très, très populaire, et notamment chez les jeunes, parce qu'il y a énormément d'influenceurs et influenceuses qui sont dessus. Et en termes de marketing, ça a une image très, très différente d'Instagram, par exemple. C'est-à-dire que si on prend le seul exemple des influenceuses, par exemple, qu'on connaît le plus... sur Instagram, il y a ce truc très marqué de placement de produits. C'est très très clair en fait quand on regarde une story Instagram d'influenceuse, quand il y a un placement de produit et quand il y en a pas. Sur Snapchat, les barrières sont beaucoup plus floues et il y a vraiment énormément de choses qui se passent sur ce réseau qui reste un petit peu à l'abri des regards parce que en France en tout cas, c'est pas toutes les classes sociales qui l'utilisent aussi. Et c'est pas forcément les mêmes marqueurs sociodémographiques que pour d'autres réseaux sociaux. Par exemple, Snapchat, en fait, c'est un réseau social qui est très, très utilisé en cité, dans les milieux ruraux, etc. Beaucoup moins chez les CSP+, par exemple.
Ah, c'est marrant, j'aurais pensé le contraire.
En fait, Snapchat, ça reste un truc très, j'ai envie de dire, local, c'est-à-dire de quartier, de ville, de petite ville, de collège, de lycée, etc. Ouais, et donc, il y a vraiment un marqueur très local sur Snapchat et où il y a tout un lien avec la télé-réalité, avec les paris sportifs, avec certains sportifs, des joueurs de foot, etc. Donc, on y trouve du assez hardcore sur Snapchat, mais aussi du très bon et du très divertissant. Mais par exemple, je sais pas si vous savez, le plus gros influenceur sur Snapchat, c'est un mec qui s'appelle Nasdas et qui a, alors je sais plus combien de millions d'abonnés il a, mais c'est énorme. Et moi, j'avais jamais entendu son nom jusqu'à faire son portrait. Et c'est un mec qui vit dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de France, qui est un quartier gitan et de gens du voyage à la base. Et en fait, lui, il a fait toute sa popularité sur le fait qu'il a de l'argent et qu'il distribue aux jeunes de son quartier. Et toute sa popularité, elle est là-dessus. Et en fait, il a fait des fois des rencontres avec ses abonnés où ils ont... Donc, c'est Perpignan, c'est pas non plus... c'est une ville qui est assez peu centrale pour pouvoir se réunir. Il a fait des rencontres avec des abonnés où il se retrouvait avec 2000 personnes qui débarquent. Il a mis une story, à 17h. Le rendez-vous est à 18h. Une heure après, il y a 2000 personnes qui débarquent sur une petite place de village. Il faut savoir qu'à Perpignan, la municipalité, c'est Louis Alliot, donc d'extrême droite. Donc, ça passe très, très mal avec la municipalité et avec la police. Mais il y a plein de trucs. Et ça, quand j'en parle autour de moi, même chez des gens assez aficionados un peu de la tech, on connaît très peu, au final, les gros noms sur Snapchat. Donc, c'est assez marrant.
C'est ça qui est intéressant à suivre dans Snapchat. C'est que je pense que la technocratie l'a un petit peu oublié. Pendant les périodes difficiles, et il y a TikTok qui est hyper brillant à côté, qui évidemment a un niveau de succès qui est incomparable, mais Snapchat continue à évoluer, à être présent et continue à se renforcer en faisant son truc. Donc c'est intéressant à suivre. Merci pour ce petit topo sur Snapchat. On va continuer à avancer. Il y a donc ce projet Ratatouille qui est un projet de Amazon, qui est une opération de relations publiques pour améliorer son image en France. Et je vais être honnête, j'ai pas vraiment, même pas vraiment regardé le projet. De quoi, en gros, c'est faire de la pub, ils veulent changer leur image. Mais quelle idée d'appeler le projet Ratatouille ? Déjà, à la base, si tu veux te griller ton image en France, Mais qu'est-ce qu'il a...
Il y a vraiment un truc. Il y a un truc culturel qui est incroyable autour de Ratatouille. C'est fou. Sur TikTok, il y a tellement de gens, bon, beaucoup d'Américains qui sont très très fans de Ratatouille.
Ouais.
Je trouve que ça participe à vraiment... moi, je fais un gros parallèle avec Emily in Paris et Netflix et toute la communication qu'ils ont fait autour de eux. Et je pense que en fait, Ratatouille, dans son image de la France, c'est très, on va dire, drôle et millième degré et hypocrite. Et c'est vrai qu'en tant que Français, c'est un peu drôle qu'on nous compare à un rat cuisinier. Mais c'est...
mais le problème, c'est que... Le truc, c'est que tu parles entre parenthèses de Emily in Paris. Moi, j'ai beaucoup aimé Emily in Paris. Je sais que
c'est drôle. Les Français, jouée, c'est drôle.
On est d'accord. Et accessoirement, je trouve que l'image des Français, en particulier des Parisiens, est quand même assez juste, même si les... T'es d'accord avec moi, Pauline ? Je crois qu'on va être les deux seuls.
Un peu, mais dans une vision très troisième arrondissement et neuvième.
Non, mais complètement, complètement. Mais il y a quand même beaucoup de ça, quoi. Et puis, enfin, pas que le... Comment il s'appelle le mec qui a les cheveux blancs, là ? Ah, merde ! Gilles ? Jacques ? Je sais plus. Bref.
Oui. Le français de la bande.
Il y a des fois, il sort des trucs et tu dis, mais ok, il pousse un peu le potard, mais c'est pile ça. Enfin bon, bref, Emily in Paris. Mais le problème, c'est pas tant qu'on aime ou pas Ratatouille. Le truc, c'est que t'imagines les meetings d'executives aux États-Unis qui disent, alors comment on va appeler notre projet ? Oh, ben on va l'appeler Ratatouille, c'est quand même. Ah, bah oui, là, oui c'est gentil en plus, Ratatouille.
C'est un nom de code, super... c'est gentil, tu vois.
Oui. Mais tu l'appelles... Enfin,
c'est pas un truc destiné à la consommation générale, tu vois ce que je veux dire.
Évidemment, évidemment. Mais quand même, en interne...
Ça en dit beaucoup, moi, je trouve. Qu'est-ce qu'on pense du public français, en fait.
C'est ça.
Ça me rappelle, il y a très longtemps, évidemment, cette opération d'intox des services secrets anglais, je crois, ou américains, qui voulaient faire croire aux nazis que le débarquement allait avoir lieu en Sicile.
Mmh.
Et qu'est-ce qu'ils avaient pris ? Ils avaient pris le corps d'un soldat mort dans lequel ils avaient mis les documents, etc. Ils l'avaient mis dans l'eau en espérant qu'il aille s'échouer sur une plage. L'opération s'appelait Mincemeat, l'opération chair à pâté. C'était pas plus élégant du monde.
Non, mais
ça donne moins faim que Ratatouille, quoi.
Je trouve que ça dit beaucoup de choses parce qu'il y a une vision américaine. Enfin, moi, je passe beaucoup de temps sur TikTok et sur la vision culturelle des Américains vis-à-vis de la France. Et il y a vraiment ce truc de déjà, ils sont tous persuadés que tout le monde vit à Paris, que tout le monde adore la gastronomie et le vin et fumer des cigarettes en parlant très très lentement. Il y a vraiment une vision culturelle et qui est très particulière. Et en fait, du coup, ça m'étonne pas. Je trouve ça juste très significatif de Amazon qui se dit on est face à un pays qui a quand même une culture. En termes littéraires, cinématographiques, etc., qui est très particulière comparé au reste de l'Europe, au reste du monde, aux États-Unis tout simplement. Comment on peut faire pour essayer de leur vendre des trucs qui respectent cette vision-là
Et
clairement, ça ne marche pas. Enfin, moi, je trouve c'est un peu...
On a déjà passé trop de temps sur cette news, mais c'est comme si, tu vois, on fait un projet pour parler aux Américains et t'appelles le projet hamburger, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais, on va parler... Roast beef, ou tu parles aux Anglais, tu t'appelles le truc roast beef. Enfin, je sais pas, c'est pas...
Projet roast beef, projet tea time.
C'est ça. D'ailleurs, la réaction la plus drôle, c'était « Mais vous avez un moyen super simple pour que les Français apprécient votre marque et votre produit et changent leur image. Ça serait, par exemple, de payer vos impôts. » Ça serait...
Tout simplement.
Quoi d'autre ? Zuckerberg a annoncé que Instagram allait laisser... on pourrait ajouter dans Instagram 5 liens. 5 liens au lieu d'un aujourd'hui. Et c'est pour contrer tous les produits du type Linktree, etc. Link in bio, tout ça que vous connaissez peut-être. C'est marrant parce que c'est vraiment, encore une fois, un besoin. On parlait de problème en quête de solution, ou non, de solution en quête de problème. Là, c'est vraiment... un besoin qui se crée, qui fait évoluer un produit en fonction des usages. Ce qui a été la norme sur Twitter pendant longtemps et sur d'autres. Et je suis curieux qu'ils cèdent, mais je comprends pourquoi. Parce qu'ils étaient en train simplement de donner une partie de leur activité, de leur business à d'autres sociétés. Et là, ils leur coupent complètement l'herbe sous le pied. Donc, je trouvais ça intéressant à noter. Pour expliquer aux gens qui ne connaissent peut-être pas, comme on peut mettre qu'un seul lien dans Instagram, et il y a d'autres sites aussi, d'autres services, eh ben, il y a des services parallèles qui sont développés qui, à partir d'un lien, vous permettent d'afficher plusieurs liens, comme par exemple Linktree, que vous avez peut-être vu ici ou là, où vous avez, bah, vous cliquez sur Instagram, voilà mes liens, et vous avez le lien Twitter, le lien YouTube, le lien Patreon, le lien machin. Moi, je pensais à l'utiliser un moment, et ce n'était pas suffisant. Je me retrouvais avec 25 liens pour avoir les liens vers chaque plateforme pour s'abonner à mes podcasts, comme j'avais plusieurs podcasts. Et du coup, c'est pour ça qu'on a développé notrepatrick.com, qui est une merveille d'ingénierie design, que je vous encourage à aller voir, mais on y avait pensé. L'Union européenne a validé de manière provisoire le plan qui prévoit d'investir 47 milliards de dollars, c'est le Chips Act, dans la fabrication de processeurs. Vous me direz, mais 47 milliards, on va faire quoi avec ça? Alors l'ambition est d'arriver à 20% de production mondiale en 2030. Ça va vite hein, quand même, sachant qu'on est à peu près à 10% aujourd'hui. Donc l'idée n'est pas de conquérir toute la production de processeurs dans le monde, mais de devenir un petit peu plus autonome. Moi, ça me paraît quand même extrêmement important, vu ce qu'on a vu ces dernières années.
Mais c'est intéressant, parce que c'est peut-être la chose la plus cruciale au monde. Juste ça. Mmh. Hein, c'est pas, c'est-à-dire qu'en fait, le reste n'a aucune importance.
Alors, les deux sont un peu différents.
Non, mais je vais m'expliquer. Évidemment. D'accord. Mais non, c'est-à-dire que c'est un truc qui est en train de définir tout, la géopolitique. C'est-à-dire que le fait que ce soit TSMC qui fasse aujourd'hui à Taïwan et ailleurs l'essentiel, genre 80% des puces les plus avancées, c'est là au moins la moitié de l'explication du soutien international à Taïwan. Mmh. Ah oui, c'est aussi ça, d'ailleurs c'est l'explication, c'est aussi l'une des choses qui les protège un peu d'une invasion chinoise.
Ah mais complètement.
Parce que si invasion chinoise y avait, bah, ce serait difficile de leur mettre en marche tout ça. Et puis en plus, TSMC produit des puces, mais ne les crée pas. Et TSMC, ils ont besoin de machines qui sont faites en Hollande, sont les trucs les plus avancés au monde. Enfin, en fait, il y a un bouquin de Chris Miller qui vient de sortir là-dessus, sur la géopolitique des puces. C'est absolument... Enfin, lisez-le, écoutez-le. Enfin, c'est, voilà, moi, ça m'a ouvert les yeux. Moi, qui pensais connaître ce truc, mais qui était en fait de la génération précédente, tu vois, la génération Intel, qui se sont fait un peu distancer sur pas mal de trucs, et qui, eux, donc c'est pas juste un enjeu économique comme on le dit par exemple, tu vois, je sais pas, sur les batteries par exemple, on dit ce serait quand même bien qu'on ait notre propre supply chain. Bah là il y a cet enjeu là, mais il y a aussi un immense enjeu géopolitique derrière. C'est à la fois passionnant, terrifiant, enfin ouais. Voilà.
Et ce que j'ajouterais sur ce point, c'est que c'est un exemple, un énième exemple de l'importance de l'Union européenne, qui sans cette collaboration économique et technique et autres ne pourrait pas avoir ce genre d'initiative. Et on pourrait se dire 20%, c'est pas beaucoup, mais ça permet de sauver les meubles en cas de catastrophe. Et on a vu que ça peut poser des gros problèmes. Et ça a des conséquences réelles. Hein. C'est pas juste pour avoir les derniers iPads. D'ailleurs, entre parenthèses, les puces seront pas les dernières générations, certainement. Ça sera des trucs peut-être un peu.
Ah, si, pourquoi pas ? Parce que justement, c'est possible. Machines, elles sont faites aux Pays-Bas par ASML. Donc, on a déjà une énorme pièce du puzzle. C'est-à-dire qu'on a déjà les gens qui savent faire les machines, qui font les machines. Ouais. Et après, évidemment, il y a de l'investissement industriel. On est toujours un peu embêté quand c'est la puissance publique qui dit « Tiens, nous, on va lancer. Ouais, mais vous allez... » Enfin, c'est, voilà, il faut quand même trouver des vrais industriels derrière pour opérer tout ça. C'est pas la Commission européenne qui va dire « Alors, on va mettre une usine de puces à Dunkerque et l'autre à Hanovre. » Oui, non, c'est pas... ça ne marche pas comme ça.
Better Betrave nous demande le titre du livre que tu évoquais.
Je vais te retrouver ça tout de suite. Ne sais pas s'il en existe une édition française.
Ah, mais bon, même en anglais, ça peut être intéressant. Et puis, dernière chose que je voulais évoquer, c'est le fait que Biril dit qu'ils ont 20 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Contrairement à ce qu'on disait, alors c'était une analyse de... Je crois que c'était pas Aptopia, mais bon, qui disait qu'ils en étaient à 6 millions aujourd'hui. Et surtout, ils sont en train de changer leurs produits un petit peu. Ils permettent d'ajouter 3 photos par jour, etc. Donc, le produit, ce que je disais la semaine dernière, c'est que Biril, bah, ils étaient un petit peu statiques au niveau du produit et que forcément, à force, ça devenait un petit peu rébarbatif. Et bah, ils sont conscients du truc, hein, évidemment. Ils font évoluer leurs produits. Je vois Pauline encore hocher de la tête.
Oui, moi j'adore Biril. Enfin, je trouve que culturellement, Biril, c'est trop intéressant parce que pareil, c'est destiné aux ados. Et culturellement, c'est marrant de voir comment on est passé de certains réseaux sociaux et notamment Instagram où c'est très lissé, très contrôlé, etc. Et tout le but de Biril, c'est d'être authentique et de poster sur l'instant. Et je sais pas, je trouve que culturellement, c'est un truc hyper intéressant en termes de réseaux sociaux, comment on évolue, comment on se présente dessus, etc. Et donc, Biril, moi, je l'ai, personnellement, c'est très, très drôle. C'est vraiment très rigolo, j'aime beaucoup.
Enfin, donc, je suis curieux de voir... Pardon.
Non, vas-y, j'ai fini.
Je dis, je suis curieux de voir comment ils vont faire évoluer leurs produits, effectivement, sans perdre cet aspect hyper important d'authenticité. Donc, à voir. Claire. T'as retrouvé le titre, Cédric ?
Oui, ça, j'ai hésité entre Chips War et Chip War. C'est Chip War au singulier. Il y a tout un sous-titre, mais vous cherchez Chip War Chris Miller. C'est juste... En fait, c'est le bouquin est très bien, mais c'est que ça te fait mettre le doigt sur des choses que tu ne soupçonnais pas jusque-là. Et puis des choses qui sont... C'est-à-dire qu'on est sur des technologies... Pour aller où on est aujourd'hui sur les puces, on a en gros défié les lois de la physique. C'est-à-dire, moi, je me souviens, il y a 10-12 ans, quand Intel disait, vous vous rendez compte que là, on est en gros en train de dire, pour réduire ça, il faut retirer 2 atomes sur les 7 qu'on a ici. Enfin, c'était déjà énorme. Et on a réussi à passer la vague technologique suivante aujourd'hui, mais avec des machines. Moi, tout à coup, j'ai qu'une envie, c'est d'aller visiter ASML aux Pays-Bas. Ces gens qui font... Et avec des choses... Mais là aussi, c'est génial. C'est des machines qui font 250 000 composants pour les produire. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut que ces composants soient assez fiables pour durer des décennies. Parce que vu le nombre de composants, si le temps de panne moyen est en dessous de ça, elle va tomber en panne au bout de 4 minutes. bref. Enfin, tout ça pour produire des lasers qui sont plus chauds que la surface du soleil. Enfin, ce truc te met un grand vent quoi, dans l'ensemble. C'est passionnant sur plein d'aspects technologiques, géopolitiques et tout le reste.
Merci à tous les deux pour, comme je le disais, votre expertise et vos avis sur tous ces sujets. C'était un excellent moment passé en votre compagnie, comme toujours, et pour les auditeurs aussi, je l'espère. Si vous voulez prolonger ces moments de plaisir, peut-être que vous voudriez retrouver nos intervenants sur Internet. Par exemple, Cédric, où peut-on te retrouver quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech?
Exactement, à Cédric sur Twitter, que te dire. sans checkmark désormais. Et cette semaine, un nouvel épisode des Doigts dans la prise va sortir. Donc écoutez-le, partagez-le, adorez-le.
Adorez-le, très bien. Merci beaucoup Cédric. Pauline, où es-tu sur Internet ?
On peut me trouver sur Twitter principalement, Pauline Ferrari avec un 0 à la place du AU, Pauline Ferrari. Et sinon, on peut me trouver sur des sites d'information quand je publie des articles. Et donc, bientôt, on va avoir un peu de Combini, et un peu de Le Monde, et un peu de... On verra d'autres choses après. Mais c'est pas mal ça. Pas mal sur Twitter, je partage quand même pas mal de
choses. Très bien. Comme quoi, vous voyez, on parle, on dit « Twitter, pas si... » Et bien, tout le monde dit « Vous me retrouvez sur Twitter, parce que c'est le format
qui fonctionne. »
Et oui. Et pour ma part, devinez où c'est ? Sur Mastodon.
Notepatrick.com.
Et aussi sur Twitter. surtout sur Twitter. Mastodon, oui. Alors, notepatrick.com pour tous les liens. Ils sont d'ailleurs dans les notes de l'émission. Donc, vous les retrouverez tous là-bas. Au-delà des réseaux sociaux, il y a aussi Discord. Est-ce que c'est un réseau social, Discord, peut-être ? Discord.
Ouais.
Oui, ben voilà, on se retrouve sur Discord également pour discuter, pour s'amuser, etc. Vous avez le lien dans les notes de l'émission et bien sûr patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission directement. Je vous encourage à au moins y penser quand vous arrivez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous dites « Oh, Patrick, comment n'ai-je pas pensé ?» Alors maintenant je m'isole 30 secondes et je réfléchis. Est-ce que je voudrais soutenir Patrick ou non ? 30 secondes, c'est pas long, 30 secondes, pensez-y. Imaginez les bénéfices incroyables, les contenus supplémentaires, comme peut-être qu'on va faire un petit after show. Là, je me disais peut-être qu'on pourrait parler de ce que ça veut dire de primer ChatGPT. Qu'est-ce que ça veut dire de primer ? Je peux vous en parler un petit peu. Mais surtout, imaginez la fierté, le sentiment, la chaleur intérieure de vous dire « Patrick, s'il peut manger aujourd'hui, c'est aussi grâce à moi ». Et je pense que ça n'a... Je suis une sorte de mécène moderne de la création, j'allais dire artistique, je pousse peut-être un petit peu le bouchon, mais de la création d'aujourd'hui. Donc, patreon.com/rdvtech, merci à tous, on se retrouve, et merci à toutes, et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.